Bonjour,
Bonjour.
bonsoir. Tout dépend de là où vous trouvez. Je suis Armen Yobel, Léo Léopard, et bienvenue sur Classique Patata. Pour cet épisode, je reçois une femme, mais nous ne parlerons pas lecture, nous parlerons objectif, résolution, parce que l'air de rien, nous sommes en mai 2020. L'air de rien, je suis sûre que parmi nombreuses d'entre vous qui avez mis en top priorité pour 2020, faire plus de sport, garder la patate, être motivé et tout et tout. Et flou, on arrive en mai. Peut-être vous avez perdu la motivation. Peut-être effectivement Corona est passé par là et a sapé toutes vos avancées. Mais aujourd'hui, on va régler tout ça parce que j'ai le plaisir, l'honneur de recevoir Mel Dixon, coach sportive d'origine camerounaise qui vit au Cameroun. Et je te remercie déjà d'avance d'avoir accepté l'invitation et échanger avec moi pour nos auditeurs sur comment se maintenir en forme, comment avoir envie d'être en forme. Bienvenue Mel, merci encore d'avoir accepté.
Merci de m'avoir contacté. Sorry, merci de m'avoir contacté. Je ne sais pas dans quoi je m'embarque, mais bon. Bon,
Bon,
non.
je te rassure, je ne vais pas manger, mais commençons déjà pour ceux qui ne te connaissent pas. Ici, chez Patati Patata, je suis toujours convaincue qu'on est mieux présenté que par soi-même, donc je te laisse le floor pour que tu nous parles de toi.
Mes présentations sont généralement très courtes. Je me fais appeler Mel Gibson. Et à chaque fois qu'on me demande Mel vient d'où, je dis ça vient de quelque part, c'est Mel, c'est le diminutif de mon deuxième prénom. Donc, tous ceux qui me connaissent dans le monde du sport m'appellent Mel, ceux qui m'ont connu à l'école m'appellent par mon nom de l'école. Donc, dans chaque domaine, j'ai un nom par lequel je préfère être appelée. Je vais dire quoi? Je suis d'abord passionnée de sport, passionnée de fitness, j'aime pas trop m'appeler coach. C'est beaucoup plus mes athlètes qui m'appellent coach. Bien que j'ai un certificat en physical trainer que j'ai en Belgique et tout. Donc, ça fait. Tout est né d'une passion, hein, on va dire. En fait, d'une envie de faire du sport, d'une envie d'aller à la salle, de se dépasser à chaque fois. Et petit à petit, la passion s'est installée, l'intérêt s'est développé. Et puis. Quand les personnes ont commencé à demander du coaching, je me suis formée. J'estime que ce n'est pas parce qu'on est au Cameroun qu'on doit faire les choses en sous-marinage ou au noir, hein, on va dire. Mais je ne me suis pas formée au Cameroun, je me suis formée à l'étranger. Donc, je suis rentrée au Cameroun en fin 2014 et commencé à exercer en 2015. J'ai une salle qui accueille à peu près 70 personnes tous les mois pour l'instant. J'ai une base, bonne base clientèle en ligne aussi. C'est des programmes que je mets en ligne, programmes nutritionnels particulièrement, et puis des entraînements. J'aime pas trop dire concept, mais on va dire, j'ai deux concepts par lesquels les gens me connaissent assez. Le BLM Must Go, qui veut dire que le ventre va partir. C'est assez populaire ici. Du BLM Must Go, on sait que c'est Mel. Et le Zero Excuse Challenge, qui sont des vidéos d'entraînement qu'on peut faire partout, principalement à la maison, dans son bureau, dans un petit espace sans matériel hein, nécessaire pour pouvoir atteindre nos objectifs. C'est des petites vidéos d'entraînement, en fait, c'est pour ça que ça s'appelle Zero Excuse, parce que je pense qu'on peut toujours trouver 10 minutes ou 20 minutes chaque jour pour bouger un petit peu plus. À part ça, quoi d'autre? J'ai un boulot à côté, je travaille pour une entreprise de la place. Je suis le relais marketing de l'entreprise, donc je ne fais pas que du sport. Il y a autre chose dans ma tête.
Ok, une tête bien pleine et encore bien faite, c'est presque pratiquement ce que j'ai envie de dire. Parce que à chaque fois que je regarde tes vidéos, tout à l'heure j'étais, bon, j'ai pas pu me lever tôt ce matin
Pour l'entraînement.
pour l'entraînement, mais j'ai vu que c'était, on va dire, c'était hard. Aujourd'hui c'est le 20 mai au Cameroun, elle a fait un entraînement patriotique et c'était assez chaud quand même. L'air de rien. Comment?
Un entraînement national patriotique.
Voilà. Et bah, en plus de ça, tu n'as pas dit que tu es également youtubeuse. Tu as une chaîne YouTube, c'est ça?
Oui, j'ai une YouTube.
Ok. Donc, pendant que tu te présentais, il y a une question qui m'est venue. Tu es passionnée de sport. Est-ce que pour toi, bon, il y en a qui sont comme ça, hein, qui adorent le sport, mais il y en a qui s'y sont mis. Et l'appétit est venu en mangeant, c'est en avançant qu'ils se sont dit, mais ça me fait du bien, je vais continuer. Tu te situes à quel niveau par rapport au sport? C'était inné ou tu as dû développer ça?
Déjà, j'ai toujours aimé bouger. Je suis depuis toute petite, je n'aime pas rester sur place. J'apprends même maintenant à m'imposer des temps de repos. Et maintenant, même, je les cherche des temps de repos. À un moment donné, je n'aimais pas les vendredis parce que je trouvais que c'était le week-end et je n'avais pas grand-chose à faire. Donc, je me suis même considérée à un moment donné comme hyperactive. Et les gens qui me côtoient disent que j'ai beaucoup d'énergie. Donc, je pense que l'énergie que j'ai, c'est cette énergie-là que je dégage. Dans mon activité fitness. Donc, pour revenir à ta question, au collège, j'ai pas fait, j'étais pas dans les équipes de basket, équipe de handball, comme on pouvait trouver dans les collèges et tout. J'avais un collège assez particulier, du coup, j'étais pas dans ces équipes-là. Mais en allant en Angleterre, à cette époque-là, mon père m'avait, j'étais dans un, comment ça s'appelle ça, dormitory. Les chambres d'étudiants, là. Et j'ai passé à la gym, voilà, parce que la gym était incluse, en fait, dans mon loyer. Donc, je pouvais aller à la gym. Et c'est comme ça que je commence à aller à la salle. Je commence à découvrir les machines de cardio, les machines de muscu. J'ai travaillé avec un coach, mon tout premier programme de sport, et ainsi de suite. Et après cela, j'ai continué à aller en salle pratiquement 3 mois de manière intensive. Par année, quand je suis allée à Londres, j'ai cherché une salle de sport et là-bas, il y avait des coachs personnels, des coachs personnels. Et ce que je veux dire, c'est que j'ai toujours aimé bouger. Donc, il y a eu toujours cette envie de faire du sport en moi, mais je n'en faisais pas ici au Cameroun, étant plus jeune, parce que je n'ai vraiment pas eu des personnes derrière moi pour me pousser. Donc, je disais que le sport avant, ou à l'époque où j'étais au collège, c'est un peu comme les parents, en fait, d'avant, n'encourageaient pas leurs enfants à faire du football parce qu'ils se disaient que ces gars-là n'allaient nulle part. Mais aussi, on voit Samuel Eto'o, quand son enfant dit qu'il veut jouer au foot, on ne dit pas non complètement, mais on dit oui, mais va quand même à l'école. Jamais, on ne sait jamais. Donc, moi, mes parents à l'époque ne m'encourageaient pas dans des activités sportives ou quoi que ce soit. Je pense qu'ils ne savaient même pas que j'étais intéressée par le sport. Et je suis allée en Angleterre, et c'est en Angleterre que, vu que je suis libre, je ne vis pas en famille, je suis seule, je commence à fréquenter la salle de gym et ça développe en moi cette curiosité-là. Donc, au départ, je partais parce que je n'ai jamais été rendre. Ça a toujours été, ouais, tu as l'air d'une sportive, est-ce que tu fais du sport? Comment tu réussis à garder ta silhouette aussi fine? Est-ce que tu fais du sport? Et pourtant, la fille ne tenait même pas 5 minutes sur un tapis de sport. Donc, j'ai commencé avec les 5 minutes sur le tapis de sport. Après, c'était 10 minutes. Après, c'était 15 minutes. En fait, chaque semaine, je me fixais cet objectif-là de dépasser 5 minutes sur le tapis de sport. Et au fur et à mesure, en fait, cette envie, cette curiosité s'est installée. Et au bout de, je ne sais pas, 3, 4 mois, je réussissais à tenir 1h30 sur un tapis de sport en faisant du jogging à la vitesse 10 ou 8, en fonction de où tu es. Hein. Ces vitesses-là varient et tout. Et je m'étais rendu compte que j'avais perdu toutes mes formes. J'étais fine, mais j'avais quand même un peu de fesses, un machin et tout, un peu de chair par-ci par-là. Mais en courant comme ça, 7 jours sur 7, j'ai perdu tout. Et c'est là que je commence à me dire, bon, maintenant, comment on fait pour récupérer les formes? Et c'est comme ça que je tombe dans la musculation. Donc, tout est parti d'une envie de bouger, de la curiosité, d'une petite envie de se dépasser. Donc, on peut dire que ça s'est développé alors.
Toi, bon, tu disais que certains de tes proches te définissent comme hyperactive, tu as toujours eu beaucoup d'énergie, mais pour celles pour qui ce n'est pas un reflet, je veux dire, elles n'ont pas de l'énergie à dépenser. Parce que ce que j'ai oublié de dire en début de cet entretien, c'est qu'il a été sollicité par une de mes auditrices sur Patati Patata, qui, me voyant tenir, parce que ça va faire 1 an et demi que je me suis mise au sport pas au sport de haut niveau, mais vraiment. Mais je me suis mise au sport, j'essaie de tenir autant que possible. Et elle me disait, tiens, ce serait sympa si tu pouvais faire un podcast dessus. Et tout ça pour dire que pour celles pour qui ce n'est pas évident, pour celles qui sont paresseuses et qui n'ont pas forcément envie pour un début de commencer le sport de compète, qu'est-ce que tu recommandes?
Je ne prends même pas le sport de compète. C'est pour ça que j'appelle mes vidéos YouTube d'entraînement les Zéro Excuse Challenge. Parce que je pense que le but est d'arriver à à développer l'activité sportive comme une habitude. Comme ça, on n'a pas besoin de motivation pour y aller. Ce que je veux dire par là, c'est quoi? Beaucoup de personnes se mettent au sport parce que, oh, je vais perdre du poids. Aujourd'hui, avec Instagram, oh, je veux avoir des fesses, je veux avoir un ventre plat. Et c'est que beaucoup de femmes, particulièrement, je veux perdre le poids de la grossesse, je me suis mariée, j'ai pris du poids, et ainsi de suite. C'est clairement difficile au départ. Et je peux dire que même pour moi, même aujourd'hui, il y a des matins, je n'ai pas envie de me lever. Et je ne vais pas comparer faire du sport à me brosser les dents, parce qu'il y a des matins où je ne fais pas de sport, mais je me brosse les dents tous les matins. Mais faire du sport, pour moi, c'est vital. Il me faut une bonne raison pour ne pas en faire. La bonne raison, ça peut être quoi? Ça peut être que je suis malade, ça peut être que je suis en vacances, ça peut être tout simplement que je me suis mise moi-même au repos. Il y a des personnes qui sont complètement anti-sport, anti-sport du genre, elles préfèrent manger des fruits du lundi à vendredi, des légumes du vendredi à dimanche, comme ça, 365 jours par année, 365 jours par année. Et ils sont anti-sport. Ces personnes, on ne peut pas les forcer. Maintenant, si tu as envie de faire du sport et tu estimes que tu es paresseuse, moi, ce que je conseille généralement, c'est fais-le dès le réveil. Parce qu'une fois que c'est fait au réveil, c'est fait. On n'a pas à attendre la fin de la journée. Parce qu'en fin de la journée, il y a beaucoup de choses qui sont passées. L'humeur a peut-être changé, la motivation a peut-être disparu, quoi. Mais si ce n'est que 5 minutes, si ce n'est que 5 minutes que tu peux faire aujourd'hui, lève-toi et fais ces 5 minutes. Maintenant, il y a différentes formes de fitness. Il y a les gens qui peuvent faire en musique. Moi, particulièrement, j'aime pas travailler en musique parce que j'ai des key points et comment on appelle ça, des points de rappel dans ma tête pour pouvoir bien exercer les exercices. Donc, je ne peux pas travailler en musique parce que la musique va clairement bloquer comment dire, la diffusion ou ces paroles-là dans ma tête déjà. Mets bien tes mains, assure-toi que le bassin est bien bas, quand tu fais un squat, tu t'assieds, et ainsi de suite, tu vois. Donc, si c'est 5 minutes, où je mets 5 minutes et je ne me que pendant ces 5 minutes, je commence par ça. Mais les gens se disent que quand ils vont commencer, et encore Internet nous trompe, on voit ces filles-là faire des pompes en sautant sur le ciment, sur le goudron, on se dit que mince, moi je vais arriver à ce moment-là. Quand on oublie que ces personnes-là ont commencé quelque part. Elles n'ont pas commencé en faisant ces péroulés, en faisant tous ces exercices compliqués. Elles ont commencé quelque part en faisant peut-être un squat même avec une bouteille d'eau ou même sans rien du tout. Les genoux étaient mal placés et c'est comme ma mère dit, c'est à force de faire qu'elles ont fini par bien faire. Donc dès le départ, il ne faut pas se faire violence, il ne faudrait surtout pas se comparer aux gens. Il faudrait trouver la forme de sport qui nous plaît, espérant que, du moins, tout en restant ouvert, parce que c'est bien de découvrir aussi autre chose. Parce que si on reste juste sur ce qui nous plaît, à un certain moment, on n'évolue plus. Donc, il faut commencer par ce qu'on aime, ce qui attire notre curiosité, que ce soit 5 minutes par jour qu'on le fait, que si c'est même du yoga ou même juste des étirements. Moi, j'ai des gens qui me contactent, ça fait 5 ans, je n'ai pas fait de sport, je veux venir, je veux commencer demain. Je leur ai dit non, je vous envoie des vidéos, vous faites ça pendant 2 semaines d'abord, de manière régulière, avant de venir en salle. C'est juste pour déjà signaler encore que bon, il y a des petites habitudes qu'on va commencer à développer, ne résiste pas de manière, comment dire, vigoureuse, et petit à petit, les choses vont se mettre en place.
Ok. Il y a deux choses que tu as dites qui m'interpellent et vraiment qui me font plaisir, quoi. Parce que, comme je le dis, en fait, non, je n'ai pas dit, mais j'ai appris à aimer le sport, à prendre goût à ça. Et j'avoue que quand je vois mon corps qui se dessine, même si ça prend du temps, ça fait plaisir à l'âme. Donc, de temps en temps, je suis sur Instagram et quand je vais dans la section recherche, en général, c'est que des vidéos de fitness qui s'affichent parce que je ne regarde pratiquement que ça. Et un jour, je regardais et puis je me disais, mais il y a des gens qui pensent que le sport, c'est le karaté, quoi. Parce qu'effectivement, comme tu le disais, tu vas voir quelqu'un qui va sauter un bond, retomber au sol, genre comme si de rien n'était. Et toi, tu es en mode que, je ne suis pas prête pour ça.
On est là-bas, quoi.
C'est vraiment pour dire qu'effectivement, comme tu disais, que ça prend du temps. On ne devient pas pro par un claquement de doigts. Il faut de l'entraînement, il faut de la persévérance et tout. Mais ce qui me...
Vas-y, vas-y, vas-y.
Non, vas-y, vas-y. Parce que je comptais enchaîner sur le deuxième point, donc vas-y.
Non, je veux dire qu'il faut savoir qu'on est tous débutants quelque part. Moi-même aujourd'hui, après tant d'années dans le sport, je suis encore une débutante dans certaines choses dans le sport. Oui, j'ai pris une discipline sportive. Oui, je réussis à faire certaines choses. Mais je dis, je ne tenais même pas 5 minutes sur un tapis de course. Aujourd'hui, je n'arrive toujours pas à faire 10 pompes straight. Et ça fait, on est en 2010, j'ai commencé en 2012. On est toujours débutant quelque part. Ce qui tue les gens, c'est se comparer. Et encore, quand les gens rentrent dans le sport, ils ont un objectif précis. L'objectif n'est généralement pas, je veux juste faire le sport pour mieux me sentir, pour améliorer, comment vous appelez ça, mon métabolisme de base et ainsi de suite. C'est, je veux faire le sport pour maigrir. Donc, on se dit qu'en venant, en faisant les sauts aussi rapidement, ça va aller plus vite. On se dit que non, pour avoir ces résultats-ci, ou comme on voit le corps de quelqu'un sur Instagram, on aime, on se dit qu'il faut absolument faire ce que la personne fait. Mais non, la plupart des pages que vous voyez sur Internet, que ce soit en Angleterre, les filles de l'Angleterre, les filles de la France, les filles des États-Unis, particulièrement aux États-Unis, ces personnes-là font du sport depuis l'école primaire. Ils ont dans leur cursus scolaire un cursus sport même limite, où vous avez des filles qui font... du football américain, elles sont des pom-pom girls, elles sont des danseuses. Et ça, elles ont appris ça depuis qu'elles ont 9 ans. Donc, si toi, tu te compares, qui tu te lèves un jour à 25 ans, tu viens te mettre à faire du sport, tu veux te comparer à une fille qui fait du sport depuis que t'es 8 ans, toi, tu vois que c'est une comparaison qui est compliquée. Elle a même pas lieu d'être. Regardons à pression, et après, on se dit que bon, elle a fait sa quantité, moi aussi, je vais faire ma quantité, quoi.
Donc, ne pas se laisser impressionner. Mais ensuite, ce que tu as dit et qui, je pense, est vraiment, vraiment, vraiment important, c'est même si c'est 5 minutes par jour, quoi. Même si c'est 5 minutes, même si c'est 10 minutes, on le fait rapidement, vite fait, et ça ne nous donne pas l'impression de fournir un gros effort, c'est ça?
C'est clair.
Ok. Ensuite, tu disais, il faut, si je résume bien, choisir son sport. Ça veut dire que, si j'ai bien compris, ce n'est pas forcément aller en salle, se défoncer sur le tapis ou aller faire se muscler les bras et tout. On peut simplement marcher si on trouve que c'est la marche qui nous convient le plus. On peut simplement, si c'est la natation, si on aime nager, c'est ça?
Oui, maintenant, si vous avez un objectif de vous mettre au sport, tu vois ce que je veux dire? Si quelqu'un a un objectif de se mettre au sport, moi, mon approche, je vais vraiment demander à mes clients, c'est quoi ton objectif premier? Et moi, mon objectif en tant que coach, comme ils aiment bien m'appeler, c'est de les éloigner de cet objectif qui reste superficiel, qui est je veux mourir, je veux avoir de belles fesses, je veux ci, ça. Donc, pour quelqu'un qui n'a jamais fait de sport ou qui a arrêté pendant longtemps, tu vas demander à la personne, qu'est-ce que tu faisais avant? Pourquoi tu n'aimes pas ou pourquoi tu n'as jamais fait? À partir de là, je dirige la personne. Comme je disais tout à l'heure, une dame va venir me rencontrer. Oui, je veux maigrir, machin, truc. Je lui donne 2 semaines juste d'étirement. Parce qu'on ne se rend pas compte que le fait de rester assis, le fait de ne pas faire des exercices physiques, le fait de mal se coucher, manipuler le téléphone, regarder la télé dans des positions bizarres, même manger, on s'assied bizarrement, même s'asseoir au bureau, on s'assied bizarrement. On ne se rend pas compte des problèmes que ça cause à la colonne vertébrale, à nos fléchisseurs de hanche, à nos articulations et à ces autres muscles. Il faut d'abord détendre ceux qui sont crispés, hein? Il faut les relâcher Et maintenant, il faudrait que tout soit, comment dire, prêt, entre guillemets, à l'emploi. Donc, ça peut être pour quelqu'un d'autre, ça peut être la natation. Si quelqu'un a accès à une piscine, tu aimes nager, vas-y, commence. Mais il faut savoir que pour quelqu'un qui veut maigrir, qui a peut-être 50 kilos à perdre et tout, la natation sera bien pour lui pour un départ à cause des genoux. Maintenant, moi, je suis au Cameroun, ce n'est pas tout le monde qui a accès à une piscine. Donc, qu'est-ce que je vais conseiller à la personne de faire? Je peux conseiller de la marche. Et il faut savoir qu'on peut faire de la marche même dans son salon. Il y a des vidéos d'entraînement sur YouTube qui vous disent que, OK, si tu fais cet entraînement de 15 minutes, ça correspond à tel nombre de longueurs d'une piscine, ça correspond à tel nombre de kilomètres de dehors. Tu vois? Donc, moi, j'essaie parce que les gens qui sont à l'étranger, le problème est un peu différent. Et maintenant, même à l'étranger, il y a des gens qui n'ont pas accès aux piscines, qui n'ont pas accès aux salles de gym. Donc, qu'est-ce qu'il faut leur proposer? Le but est de faire avec les moyens de bord. Parce que le corps humain, c'est notre plus grande machine. Si je fais 70 kilos aujourd'hui et je fais une pompe, excuse-moi, j'estime que je suis plus forte que quelqu'un qui prend des haltères de 12 kilos et les lève dans l'air, quoi. Parce que j'ai quand même réussi à porter mon poids sur mes deux mains. On est d'accord, tu vois. Donc, le corps est la plus grosse machine. Moi, je vais conseiller à la personne quelques exercices à faire à la maison. Maintenant, si c'est quelqu'un qui a accès aux salles de gym et tout, machin, il veut faire l'aquagym et tout, je conseille de commencer par là. Maintenant, en fonction de l'objectif, je vais diriger dans un certain, comment dire, je vais recommander certains exercices ou certaines formes d'entraînement parce que ça aidera, ces exercices aideront la personne à atteindre ses objectifs.
Ok. Tu disais également que quand tu demandes à ton, j'ai pas envie de dire client, mais bon, quand tu demandes aux personnes qui viennent vers toi pour une remise en forme, leur objectif, tu fais tout pour les éloigner de cela. Je m'explique. En général, il y a des gens qui disent que, et je crois que tu l'as souligné, faire le sport pour perdre du poids, avoir de belles fesses, avoir un ventre plat. Tu l'as dit, c'est vraiment superficiel. Ce n'est pas ça l'objectif de base. Le plus important, c'est la remise en forme, c'est d'être en bonne santé. Et je ne sais pas, après tu me diras, mais j'ai l'impression que quand on voit les choses de ce point de vue-là, on apprécie beaucoup plus facilement le parcours et on est moins obsédé que mon ventre n'est pas assez plat, mes fesses ne sont pas assez rebondies ou que je n'ai pas perdu autant de poids qu'il faut, c'est ça?
Oui, ce qu'il faut savoir, c'est que les changements physiques, c'est ce que j'appelle la cerise sur le gâteau. Et les changements physiques viennent avec une alimentation appropriée. L'erreur que beaucoup commettent, c'est de se dire que, ouais, comme la fille sur Instagram fait tel exercice pour, et elle dit que c'est pour les fesses, moi, en faisant ça systématiquement, j'aurai les fesses comme elle. Mais tu ne sais pas ce qu'elle mange à côté. Tu ne sais pas ce qu'elle boit à côté. Tu ne prends pas les mêmes compléments alimentaires qu'elle. Tu ne, comment dire, vous n'avez pas le même programme de la journée parce que tu ne vas pas comparer quelqu'un qui travaille 5 jours par jour à quelqu'un qui travaille 20 jours par jour. Tu ne connais pas les charges journalières de la personne, les charges professionnelles, les charges familiales et ainsi de suite. Donc, il y a tellement de facteurs qui rentrent en jeu. Dans l'environnement dans lequel je suis, beaucoup viennent hein, parce que oui, je veux changer mon corps et ainsi de suite. Je ne m'appelle pas coach minceur. Je ne me vante pas en tant que coach minceur parce que pour moi, ça, c'est du marketing. Et la notion de minceur varie d'une personne à une autre. Tu vois, ce que quelqu'un va appeler mince, moi, je vais appeler non, elle a des formes. Ce que quelqu'un d'autre appelle maigre, moi, je vais appeler qu'elle est mince. C'est pour ça aujourd'hui qu'on a des gens qui sont obèses, qui se font appeler curvy. Et pourtant, ce sont des personnes qui sont clairement obèses. Sans oublier que le terme obèse, c'est un terme médical. C'est comme si on disait que quelqu'un était un porteur du virus, du sida. Tu vois ce que je veux dire? Donc, chacun utilise les mots comme il veut, j'ai envie de dire, mais la base reste la base. Okay? Pour moi, l'objectif, oui, elles viennent, elles veulent maigrir. Je vais les aider dans ce sens. Je vais leur dire qu'il faut que la nutrition suive, il faut que le repos suive, il faut que les séances de sport suivent. Mais ce n'est pas seulement ça. Il y a la discipline qui est derrière. Et qui dit discipline veut dire travail dans le temps. Il faut faire ses actions de manière répétée dans le temps. Ce n'est pas une discipline de un jour. Ce n'est pas une discipline de deux jours. Ce n'est pas une discipline de un mois. Parce que tu as des gens qui se disent que parce que ce mois-ci, j'ai été correct, je dois forcément avoir perdu tel nombre de kilos. Mais attends, ton corps vit dans un certain état depuis plus de, disons, 5 ans aujourd'hui. Du jour au lendemain, tu veux changer tes habitudes et en 30 jours, tu veux que les choses changent de manière drastique. Donne le temps à ton corps d'accepter, de comprendre, parce que le corps, il résiste. Hein? Le corps humain, il résiste à tout ce qu'on fait. Donc, c'est pour ça qu'on dit parfois qu'il faut se faire violence.
Oui.
Donc, maintenant, tu as, comment dire, tu as des gens, moi, en fait, hein, il y a un truc avec mes clientes et avec mes athlètes. Moi, je pouvais les appeler athlètes parce que pour moi, c'est super beau à voir. Moi, j'ai une dame qui a commencé avec moi en 2015. Elle n'arrivait même pas à se mettre à genoux.
Mm-hmm.
Se mettre à genoux, se relever, elle n'y arrivait pas.
Mm-hmm.
Aujourd'hui, elle se met sur ses deux mains. Elle se met sur ses deux pieds derrière en planche. Mm-hmm. Elle saute et se relève. Elle n'a pas perdu 20 kilos. Hein? Elle n'a pas perdu 50 kilos. Elle a à peine perdu 10 kilos en 16 années-ci. Mm-hmm. Mais les progrès sur sa mobilité sont là. Elle n'a pas perdu tous ces kilos. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres facteurs. C'est les facteurs dont je parlais tout à l'heure. La santé, l'alimentation, la famille, le boulot, la pression sociale et ainsi de suite. Mais quand je la vois aujourd'hui, moi, je suis fière. Quelqu'un d'autre dirait, oui, mais pendant tout ce temps, elle n'a pas perdu, machin. Oui. Elle sait ce qu'elle doit faire pour perdre du poids. Quand elle le fait, elle perd du poids. Mais quand elle s'éloigne de la salle et qu'elle ne fait pas ce qu'elle doit faire, soit elle reprend les kilos, soit elle fait du surplace. L'objectif pour moi, et parce que la santé va au-delà de l'aspect physique. J'ai un ami qui me disait encore ce matin qu'il a un ami aussi fin que lui. Ils sont tous les deux minces. Mais on a amputé le gars il n'y a pas très longtemps parce que le gars est hyper tendu et diabétique. On se dit que quand on est mince, on n'est pas malade. Mais être mince n'est pas un indicatif de la santé.
Tout le but,
c'est d'être en santé. C'est pour ça que même quand je fais mes exercices, je préfère prendre du temps pour expliquer à quelqu'un comment bien faire les pompes que de laisser la personne se foutre une épaule en l'air. Parce que demain, ce sera son sport qui a gâté mes épaules ou mes genoux. Et pourtant, ce n'est pas ça le but. Le but, c'est de mieux se déplacer, mieux dormir, mieux se sentir dans sa peau. J'ai envie de dire, être moins stressé hein, et avoir de meilleurs rapports avec les autres. Parce que quand notre corps est tendu, nos relations avec les autres sont tendues, nos relations avec l'extérieur sont tendues. Donc, il faut pouvoir aller au-delà de cet aspect physique-là, de « je veux maigrir parce que si, parce que ça ».
Ok. À quel moment, à ton avis, on développe la routine? À quel moment elle devient automatique, elle devient vitale? Parce que tu l'as dit, le corps résiste et tout le monde connaît ces périodes, ces moments-là. Quand la première fois tu vas marcher, on va dire un kilomètre et que tu n'as pas l'habitude de le faire, tu auras tellement mal, tu vas rentrer à la maison, tu vas dire que c'est bon, oubliez-moi. À quel moment? Après, tu vas essayer une fois, une deuxième fois, une troisième fois. Est-ce que si tu t'arrêtes, tu peux facilement recommencer et continuer d'un trait? Est-ce qu'il faut 2 semaines? Est-ce qu'il faut 1 mois? Combien de temps il faut pour que ça commence à devenir un réflexe?
Un réflexe. J'étais en train de mettre mon doigt dans la bouche pour couper l'ongle et puis j'ai dit réflexe. Parce que j'appellerais pas ça réflexe en fait. Pour que ça devienne une habitude, je pense que ça dépend de la personne et ça dépend du mindset de la personne. Tu vois, pour certaines personnes, je peux même dire à 80%, toutes les personnes qui sont passées dans ma salle n'arrêtent pas de faire l'exercice physique aujourd'hui, même si elles ne viennent pas dans ma salle. Mm-hmm. Et pour moi, ça, c'est une grosse victoire parce que j'ai des gens qui n'avaient jamais pensé faire. J'ai des gens qui m'ont dit, moi, j'ai donné l'argent au collège, j'ai dit que j'étais inapte. Je ne fais pas de sport. Mais me voici aujourd'hui. Quand je sais que je n'ai pas fait de sport en semaine, je suis malade. Parce que tu m'as donné cette envie de faire du sport. Quand je te vois faire, j'ai envie de faire. À quel moment, je pense que ça dépend de la personne, ça dépend de comment la personne voit en fait l'activité sportive. Et bien évidemment, on s'adapte aussi aux circonstances de la vie. Il y a des gens qui se laissent décourager par leur entourage, ou par ce qui peut leur arriver, hein, comme des deuils, peut-être une perte d'emploi, et ainsi de suite. Franchement, ça dépend de la personne et de son mindset. Mais je peux me lever aujourd'hui, je n'ai pas envie d'aller au sport, je vais y aller. Pourquoi? Parce que c'est une discipline pour moi aujourd'hui, mais ce n'est pas un réflexe. Okay. Tu vois? Mm-hmm. Parce que pour moi, un réflexe, le réflexe, c'est un peu inconscient. Mm-hmm. Mais si je me lève le matin, je prends le soin de savoir, de me coucher la veille, de me dire que demain, je vais aller en salle. Pour moi, ce n'est pas un réflexe, en fait. C'est une discipline, c'est un mode de vie. C'est déjà intégré, quoi. Quand je me range l'ongle, à un moment donné que je me rends compte que je suis en train de me ranger l'ongle. Mm-hmm. Et puis, je me dis, ah bah tiens, ça, c'est un petit réflexe que j'ai. Ou peut-être quand quelqu'un me parle, je tape du pied. C'est à un moment donné que je m'en rends compte. Mais le sport, je me lève de manière consciencieuse en sachant que non, où je parle là, c'est ça gâte ou ça gâte, quoi. Tu mm-hmm. vois? Donc, ça dépend de la personne, son mindset, hein, comment il a évolué, quand elle a commencé, les personnes qu'elle a en face d'elle et les circonstances autour de cette personne.
Et après, tu me diras si je me trompe, mais j'ai également l'impression que quand on a fait une habitude, on a de la peine à arrêter parce que quand tu ne le fais pas, quand même, tu sens que ton corps n'est pas à l'aise, tu vois. Genre, tu vas passer une mauvaise journée. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai remarqué. Quand je ne fais pas le sport le matin, je suis lourde, je suis parfois de mauvaise humeur, je suis grincheuse, alors que quand je fais mes exercices le matin, j'ai l'impression que ma tête est free et que je peux survoler le monde tellement je me sens légère, quoi.
Ouais, je pense. C'est l'effet, en fait, des endorphines. Ce mm-hmm. sont pratiquement les mêmes hormones qui sont relâchées quand les gens ont des rapports intimes. Mm-hmm. C'est un sentiment. C'est des hormones bien-être. Donc, oui. Tu as l'impression, moi, franchement, quand je fais le sport le matin, je sais que ma journée est pointée, quoi. Mm-hmm. Et il y avait un petit coach qui se baladait sur Internet, là, coach Q-O-T, hein, je le dis en anglais, mm-hmm. Qui disait que « When you start seeing the results, it becomes an addiction. » Yeah. Les résultats, en fait, poussent à ce que ça devienne comme une drogue. Mm-hmm. Les gens vont regarder, vont dire les résultats physiques. Mais non, mais ce bien-être qu'on ressent à la fin de la séance, cette légèreté qu'on ressent toute la journée, ou même pour ceux qui font le sport le soir, quand ils sortent du bureau, ils vont en salle, ils se défoulent complètement. Genre, tout ce qu'on leur a dit au bureau qui est énervé, tous les appels qu'ils ont reçus, tout le stress et ainsi de suite, ils déposent ça en salle avant de rentrer chez eux. Mm-hmm. C'est ce sentiment de bien-être là, en fait. Donc, les résultats, comme je disais encore tout à l'heure, vont au-delà de l'aspect physique. Parce qu'on se rend compte que moi, j'ai des gens qui sont venus chez moi à qui on a dit, ton genou là, tu ne dois pas monter les escaliers avec, tu dois porter des béquilles. Mm-hmm. Donc, quand tu arrives, tu dis, fais un squat. Oh, le médecin a dit que je ne peux pas sauter et tout. Je dis, mon ami, descends, tu montes, tu fais. Quand tu as déjà confiance, tu le fais. Tu as eu mal, non, continue. Moi, j'ai une dame aujourd'hui, ça fait plus de 5 ans aujourd'hui. Chaque fois, elle m'appelle, elle me dit, tu ne sais pas comment tu as sauvé ma vie. On m'a dit que je devais marcher avec les béquilles. Mais aujourd'hui, elle a perdu plus de 30 kilos. Elle est la coach de sa zone où elle vit. J'ai envie de dire ça comme ça. Mm-hmm. Et les gens vont vers elle pour lui demander des conseils et ainsi de suite. Et aujourd'hui, elle n'a pas besoin de béquilles. Son mari est content, ses enfants sont contents. Ses enfants savent que quand maman fait le sport, on ne dérange pas. Mm-hmm. Si maman dit qu'on mange les légumes, c'est ce qu'on va manger. Tu vois ce que je veux dire? C'est un ensemble de choses. C'est vraiment un ensemble de choses qui rentrent en fait dans la pratique régulière d'une activité, d'une activité sportive.
Et j'ai même envie de rajouter quelque chose. Bon, après on va dire que je suis maso, mais j'assume, depuis que j'ai commencé le sport et que je vois les résultats, je suis maso. Tu sais, parfois tu as mal parce que, tiens, c'est comme si je fais la chaise. Et je fais la chaise avec le gym ball, tu vois.
Et tu entends pas ça, le dos au mur en position genou plié là.
Oui, tu vois. Uh-huh. Donc j'ai rajouté hier par exemple, j'ai rajouté les gym ball dans le dos. Tu sais à quel point ça peut être instable, quoi, parce qu'il faut déjà contrôler ton équilibre, garder la position assise et tout. Mais je suis sortie de là, j'avais les cuisses en feu, mais quelque part, il y avait la petite voix qui me disait que non, c'est pas grave, tu verras, demain, tu seras encore plus fière de tes cuisses, quoi, parce que elles ont commencé à se curver et je suis, à chaque fois quand je me regarde, je suis en mode waouh, tu vois, et l'air de rien, l'effort, la douleur me donne envie de continuer parce que je sais que bah, c'est de toutes les manières, ce n'est que dans la distance, ce n'est que dans la longueur, ce n'est que dans le temps que je verrai le résultat final. Et ça, je te promets, hein, je crois que c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles je continue parce que je commence à voir les résultats et je veux en voir plus et je veux me dire que tu as pu quitter un point A. Arriver au point Z, ce n'était pas facile tous les jours
Tu vois,
parce
justement,
que.
c'est ça le mindset. C'est ça le mindset. C'est que ton état d'esprit, tu t'es dit que tu te mettais au sport et tu t'y mets. Tu ne recules pas en fait devant la difficulté. Et ce que je dis généralement, c'est que il faut pouvoir se défier, il faut savoir comment se mettre la pression. Quand je parle de pression, il ne faudrait pas que quelqu'un qui n'a jamais fait de sport prenne un gros banc, cherche à sauter dessus. Absolument pas. Mais juste le fait d'avoir placé ce Swiss ball dans ton dos pour faire le même exercice que tu as l'habitude de faire avec le dos au mur, tu as augmenté la résistance de l'exercice. Et j'ai tendance à dire à mes athlètes, ça ne devient jamais plus facile, hein? On devient seulement plus fort. Parce qu'on va se rendre compte en évoluant que l'exercice A, on peut le faire en A', A second, A tierce et ainsi de suite, de différentes manières, et la résistance est complètement différente. Et c'est ce qui rend en fait le monde du fitness super intéressant. Et pour ceux qui ont ce mindset switch-là, comme tu l'as eu, et j'ai envie de dire quelque part comme je l'ai aussi eu, parce que pour moi, c'était le but. Il faudrait, attends, j'ai squatté 20 kilos, la semaine prochaine, je dois squatter 25. Il faut que j'arrive à 100. Il faut que je squatte mon poids. Il faut que je porte quelqu'un, je mette sur mon cou et que je squatte la personne. Tu vois, t'as ce petit côté défi. Et je pense que malgré ce qu'on dit que l'être humain n'aime pas le changement et ainsi de suite, l'être humain répond quand même bien au défi. Il répond quand même bien au défi parce qu'on veut s'adapter. On veut pouvoir dire que j'ai pu dominer cette situation. Attends, une seule pompe qui doit te menacer au point où pendant 2, 3 mois, tu n'arrives pas à faire une seule pompe. Si tu ne réussis pas à la faire, c'est peut-être parce que tu as la mauvaise technique et peut-être parce que tu n'as pas assez. Mais si tu pratiques de faire une pompe chaque jour pendant un mois, tu feras au moins 3 bonnes pompes en fin de mois. Parce que c'est
Donc,
la pratique qui te rend meilleur.
voilà. Donc, pour synthétiser cette première partie d'échange, donnez-vous du temps. Déjà, je crois que quand on entre dans cette aventure-là, ne pas penser que c'est parce qu'on a dit en janvier que on doit être régulière, constante, que tel entrée de jeu, il faut que vous commencez les pompes commando. Ça ne marche pas comme ça.
Non,
Vraiment, ça ne marche
même
pas
pas
comme ça. Elle a dit, même si c'est 5 minutes par jour, même si c'est des étirements, même si c'est 10 minutes, commencez déjà par là. Et augmenter le, comment on dit,
comme ça.
l'intensité en avançant. Ne vous forcez pas parce que vous forcez, vous allez vous claquer une cuisse, vous allez vous claquer une
Vous
cheville.
allez même fatiguer votre organisme au point où il vous faudra peut-être 2 semaines à 1 mois pour pouvoir récupérer et être prêt à recommencer. C'est ça le piège. Les gens qui forcent, ils oublient ça. Quand tu viens en pleine force, tu fais un burn-out terrible, hein? Terrible.
Et après, si vous tombez, relevez-vous. C'est comme dans la vie. On n'est pas devenu expert d'un seul coup. On a tous eu des moments de doute. On est tous tombés. Mais le plus important, c'est de se relever, de commencer où on s'est arrêté, de continuer, d'élever le niveau, de rester constant, de continuer. Et surtout, il faut être patient. Vraiment. Les vidéos qu'on regarde, c'est les gens qui ont commencé très longtemps. Vraiment. Et puis après, je pense que c'est aussi ça, il ne faut pas culpabiliser. Si on n'arrive pas à faire un exercice, tu l'as dit, et je crois que c'est aussi important, c'est très important, il y a 1000 manières de faire les squats, par exemple. Si tu ne peux pas faire les sumo squats, réduis l'écart des jambes. C'est
Tu
bon.
te mets le chair squat, tu mets une chaise derrière toi, tu t'assieds, tu te relèves. Aussi simple que ça. Au lieu de
Voilà.
chercher à aller faire l'espèce qui frôle le sol pendant ton squat, moi je dis, mets une chaise derrière toi, tu t'assieds, tu te relèves. Tu t'assieds sans l'aide de tes mains, tu te relèves. Et tu, comment dire, tu t'assures. Moi, le conseil que je donne pour les squats faciles, appuie bien tes talons au sol, décolle tes orteils devant. Si tu en fais 10 aujourd'hui, c'est déjà bon. Si tu en fais même seulement 3, au lieu d'en faire 10, mauvaise, fais-en 3, bonne quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça
Oui.
qui tue les gens. Comme moi, et c'est un problème que j'ai avec les débutants en salle. Elles arrivent, tu es débutante, oui. En fait, parfois, tu demandes, ça fait combien de temps que tu fais le sport? Ah, moi, je faisais le sport avant, hein. Maintenant, je pars dans telle salle. Je dis, OK, fais tel exercice. Quand tu fais, tu regardes. Fais l'autre. Tu fais, tu regardes. Tu fais, il dit, bon, tu es débutante. On va recommencer au début. Oh non, mais écoute, non, recommencer ne veut pas dire que ton entraînement ne sera pas efficace ou que tu ne vas pas avoir des résultats avec ça. Mais il te faut une bonne base parce que c'est sur la bonne fondation qu'on construit une maison solide. Parce que si tu as une mauvaise fondation, les accidents, les gens qui ont mal au genou, mal à l'épaule, mal au bas du dos et tout, c'est parce qu'ils ont répété la mauvaise exécution d'un mouvement. Parce qu'il n'y a pas de mauvais mouvement, mais c'est l'exécution en fait qui gâte le mouvement si l'exécution n'est pas faite, n'est pas bien faite ou n'est pas faite de manière optimale. Tu vois? C'est ça qui gâte les articulations et c'est ça qui crée des problèmes. Le squat, ce n'est pas un mauvais exercice. On va dire que oui, mais les fentes, ça a fini mes genoux. Ce n'est pas la fente qui a fini tes genoux. C'est comment tu pratiquais la fente qui a fini tes genoux. Tu vois ce que je veux dire? Faut pas, on n'est pas là pour impressionner les gens. Quand on arrive en salle, on voit les gens sauter. Oui, ça motive, c'est ceci, c'est cela. Et on est poussé par le vent des objectifs physiques. Non, non, moi, il faut que j'ai perdu 10 kilos. Il faut que j'ai perdu 30 kilos. Les kilos que tu as pris, je ne sais pas, 2 ans, 3 ans accumulés, tu vas les perdre en 1 mois. Est-ce que tu imagines le choc que ça peut bien faire à ton système? C'est pour ça que la plupart, après, reprennent tous ces kilos, en fait.
Et pour terminer cette section-là, moi, je crois que ce qui m'a aidé quand j'étais en salle, parce que là, j'ai arrêté à cause de Corona, les salles sont fermées. Ce qui m'a décomplexé, en fait, c'est de réaliser qu'en salle, c'est, en fait, on a cette impression que tout le monde nous regarde, alors que la vérité, c'est que chacun est en train de
Chacun se
gérer
bat.
son objectif, vraiment, chacun se
Chacun
bat.
se bat.
Il n'y a que le coach ou bien le moniteur qui va
Mon Dieu,
regarder, qui fait
elle est
bien.
même le coach qui est devant là. Elle est en train de vous monter les exercices, même il a mal. Moi, je suis claire, hein. Et je pense que c'est pour ça que le peu de personnes qui m'aiment, même, il me dit, j'ai une fille qui m'a envoyé un message, elle m'a dit que tu n'es pas comme les autres coachs là. On a l'impression qu'eux, ils n'ont jamais mal. Ils font les exercices, ils ne crient pas. Nous, on est là, on regarde, jusqu'à quand même faire l'exercice en souriant. Il dit que ouais, là-bas, c'est leur outil marketing. Moi, mon outil marketing, quand ça me fait mal, j'écris. Et je ne me cache pas. Ça fait mal. Faudrait pas que vous. Et ça m'a fait penser, tu vois, les vidéos d'entraînement avant, là où la meuf était couchée sur le côté, elle lève la jambe, elle descend, elle sourit. Le jour que toi, tu fais ça, tu fais seulement 10, tu commences à dire que, mais comment elle réussit à sourire pendant qu'elle est en train de faire l'exercice? Tu crois qu'elle n'a pas mal? Elle a mal. Mais on leur a enseigné que non, pour faire beau, pour attirer les gens, il faut sourire. Gars, elle ne sourit pas, ça fait mal, je crie. Donc même le coach qui est devant, le moniteur qui est devant, il a mal. Et c'est pas parce qu'il te montre un exercice que lui-même, il est très bon à cet exercice. Il a la capacité à te corriger, il a la capacité à te montrer, à te guider. Mais peut-être que lui-même, il est encore en train d'apprendre. Moi, quand je dis aux gens qu'aujourd'hui, j'apprends encore à faire les squats, les gens se disent que c'est parce que je ne sais pas faire un squat. Mais non. En faisant quelque chose tout le temps, des trucs aussi mécaniques que ça, il faut toujours rafraîchir la mémoire et, comment dire, actualiser les informations. Sinon, on développe de manière très inconsciente des mauvaises habitudes et sans s'en rendre compte, à la longue, ça commence à nous poser problème. Tu vois, chaque personne qui est en salle a un problème. Chaque personne qui est en salle a son, est débutant quelque part. Chaque personne qui est en salle a un exercice qui le menace. Donc, il ne faut même pas penser que, comme le coach est là-bas, il dit que courez, sautez, courez, sautez. Tu vois que tu ne peux pas courir et sauter en même temps. Toi, tu fais cours, saute, cours aussi lentement que tu peux. Tant que tu continues de bouger, ça va aller. Avec le temps, ça viendra.
Je voudrais faire un petit commentaire. Ce matin, je suis allée sur ta chaîne et tu faisais, je crois, 5 exercices d'abdos en 10 minutes. Et Oui, c'était sur deux temps avec une pause de 30 secondes entre les deux temps. Et ce qui m'a fait rigoler, c'est que tu faisais les Swiss twists, non, les Russian twists, quoi. Tu vois, non, avec la corde, voilà, avec la corde. Et puis à un moment, tu as dit, gars, je suis fatiguée. Tu as posé les pieds au sol et tu as continué de faire comme si tu faisais le rappel en corde. Ça, j'ai trouvé ça, mais vraiment sincère, parce qu'effectivement, dans les vidéos de fitness, d'entraînement, les moniteurs sont, ils te font l'exercice en une traite, quoi. Alors que toi, tu es là, tu fais l'exercice, toi-même, tu sens qu'on commence en train de caler à un niveau. Mais les gens ont l'air tellement de surhommes que toi, tu te sens après coupable. J'ai pas pu faire l'exercice en un seul coup. Alors que, comme tu le dis, ça fait mal. Ça fait mal. Les abdos chauffent. Le plus important, tu le disais dans la vidéo, c'est de continuer. Quitte à ce que tu fais, tu le fais sur un autre format, continue, ne t'arrête pas. Mais si tu le sens, si tu sens que c'est en train de cuire sur toi, comme on dit au Cameroun, tu le fais autrement. Mais je garde juste le tempo, quoi.
Tu as vu l'exercice là, tu vois l'exercice dont tu parlais, quand j'ai décidé de le mettre hier dans mon entraînement, je me suis assise pour le faire. J'ai fait 5 répétitions, mon ventre chauffait. Je pouvais enlever en disant que non, je ne vais pas aller me présenter devant les followers comme ça, parce que moi, je ne réussis pas à tenir. Mais ce n'est pas parce que je ne réussis pas quelque part qu'il n'y a pas parmi ces followers-là quelqu'un qui peut réussir à le faire jusqu'au bout. Donc, pourquoi je vais empêcher la personne d'être content sur un exercice qu'il réussit à faire, parce que moi, en tant que coach, je ne réussis pas à le faire. Nous tous, je dis encore, on est débutants quelque part. Nous tous, on est débutants quelque part. Et plusieurs facteurs peuvent affecter ta performance physique. Ce n'est pas seulement le fait de se lever le matin et aller faire le sport. Comment est-ce que tu as dormi? Est-ce que tu as mangé la veille? Comment est-ce que tu te sens? Moi, je me suis entraînée lundi dernier. Je dis, mon ventre chauffait aujourd'hui quand je faisais ces exercices d'abdos. Et je pense que c'est cet exercice-là particulièrement qui m'a dit, garde, tant que tu as gardé tes pieds tendus pendant plus de temps que là, j'ai dit que je fais, tu me fais, comment dire, moi, ton ventre, j'ai mal. Toi, tu fais que tendre les jambes, tu ne poses pas au sol. Tu vas comprendre la douleur là. J'ai posé les jambes doucement. Là, ça ne suit pas. Vendredi, j'ai encore couru. Je vais me lever, je vais encore faire d'autres exercices. Donc, pour un exercice, je vais mourir. Pardon.
Donc, soyez indulgents vis-à-vis de vous-même,
Un,
ça
deux, pas
aide.
la compétition, pardon. Hey.
C'est ça. Mais avant, parce qu'après, on va parler alimentation. Beaucoup de personnes disent que pour commencer à brûler, il faut au moins 30 minutes de sport par jour. Est-ce que tu penses que c'est ça ou
Non.
le plus important, c'est de faire c'est de faire, même si c'est 10 minutes?
Voici, si quelqu'un veut faire le sport, moi, je n'encourage pas les gens qui n'ont pas fait de sport pendant longtemps, à commencer à se dire qu'ils vont faire le sport tous les jours pendant 30 minutes. Moi, je n'encourage pas ça. Pourquoi je n'encourage pas? Parce que j'estime que le corps a besoin de repos. Le corps a besoin d'un temps d'adaptation. Il a besoin de comprendre ce qui lui arrive. Donc, tu te lèves là le matin et ce n'est même pas 30 minutes que tu peux faire une marche simple. Non, tu peux commencer à faire les Insanity Workout, Burpee, les William Michael, les machins. Non, mon frère, tu es suicidaire. Si tu es suicidaire, tu n'as qu'à nous dire. Nous, on t'amène quelque part, on finit avec toi là-bas un tour. Allez, moi, je ne conseille pas ça. Quand j'ai une dame qui me dit, oui, je veux perdre 25 kilos, j'ai vu le coup là. Comme c'est 4 fois la semaine, je peux perdre les 20 kilos là en 2 mois, non? Parce que je fais tout 4 fois la semaine. Je dis, oh la mère, doucement. Moi, il y a des clients que j'ai refusés. Hein. Il y a des gens à qui j'ai dit, non, ce n'est pas dans ma salle de sport que tu vas venir t'inscrire à tous les cours parce que tu es pressé de maigrir. Je te dis non. Parce qu'au-delà de l'aspect je veux maigrir, je veux ci, je veux ça, même l'aspect je veux bien me sentir passe par le repos. Si tu n'es pas bien reposé, tu ne peux pas bien faire le sport. Il faut qu'on soit clair. Si tu n'as pas bien dormi la nuit, pour te lever le matin pour aller en salle, tu vas souffrir. Et même en salle, tu ne vas pas bien performer. Donc, faire le sport tous les matins, pour moi, ce n'est pas intéressant. Moi, je propose généralement 3 séances. Genre, tu fais 3 séances par semaine pour un départ. Et puis après, si tu veux faire 4 séances, il faudrait t'assurer que parmi ces 4 séances, il y ait 2 séances qui sont à basse intensité. Tu vois? Parce que haute intensité, pour quelqu'un qui n'a pas fait de sport depuis 4 fois la semaine,
c'est lourd. C'est vraiment lourd. Oui, les résultats vont venir vite. Oui, machin, tu as le mental, ainsi de suite. Mais les micro-lésions que tu crées dans ton corps, tu ne les vois pas, tu ne les connais pas. Elles vont peut-être pas se déclencher là tout de suite. Elles vont se déclencher plus tard. Et plus tard, là, il est souvent trop tard pour rattraper les choses. Donc, moi, je conseille 3 séances la semaine pour un départ. Ça peut être des séances de 30 à 45 minutes. Après le premier mois, quand on se rend compte qu'on est assez régulier, ce que je demande, c'est de garder toujours les 3 fois par semaine, mais d'augmenter la durée ou la résistance. Tout en sachant que pendant le 1 mois, là, il y aura un changement au niveau de résistance des entraînements que la personne va faire. Et c'est juste pour développer cette habitude de se lever. Maintenant, le corps va commencer à réclamer plus de séances. Donc là, on peut passer à 4 séances. On peut également passer à 5 séances. Encore, ça dépend de la personne. On est tous différents. Chacun ira à son pace, quoi. On ne peut pas, je ne peux pas appliquer ce que... Aujourd'hui, moi, je fais 3 séances par semaine. Mais à un moment donné, ma chère, je partais 6 fois par semaine en salle. Pas qu'aujourd'hui, je ne peux pas le faire. Mais je sais qu'avec comment je n'arrive pas à doser mes séances de basse intensité. Si je pars 6 fois par semaine, je pars 6 fois par semaine pour des workouts assassins. Et à la fin, je suis clouée au lit peut-être pendant 2 semaines parce que je n'arrive pas à me lever pour aller faire du sport parce que j'ai tellement secoué mon métabolisme qui m'a dit qu'attends un peu, tu crois un peu que tu es où là. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il faudrait que chacun écoute son corps aussi. Même quand il faut se faire violence, il faut écouter son corps. Parce que notre corps est le meilleur indicateur. Maintenant, après, il y a des petites voix dans notre tête qui vont nous dire non, oui, machin. Il faut aussi savoir analyser si c'est la voix de la paresse ou si c'est la voix de la raison. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Donc, pour moi, 3 fois par semaine, de manière générale, on le fait peut-être pendant 1 ou 2 mois. Quand on se rend compte qu'on est régulier dans cette fréquence-là, on peut passer à 4 fois la semaine. Et surtout, ne pas oublier l'essentiel qui sont les échauffements et les étirements. Et le repos. Okay. Parce qu'on parle de workout, secouer, bouger, machin. Mais échauffement, étirement et repos, ça fait une grosse différence à tout, quoi.
Alors, je viens de penser à une dernière question avant de bouger à l'alimentation. Beaucoup de personnes, en tout cas, moi, c'est l'impression que j'ai. Hein, et je crois que c'est vrai. Après, c'est toi qui connais. Mais... est-ce que si je fais le même exercice, par exemple, si je porte 3 kilos d'haltères chacun pendant 3 mois, est-ce qu'au bout d'un moment, mon corps continue de travailler en sachant qu'il est déjà habitué? Au début, il travaillait parce que je ne portais pas ces charges-là. Mais est-ce qu'au bout de 3 mois, l'effort est le même en sachant que, bon, il ne fournit plus aucun effort parce qu'il connaît déjà et à un moment il faut challenger.
Tu as répondu toi-même à ta question en fait. Le corps humain c'est une machine et une machine qui s'adapte. Oui. Tu sais, on va te dire si on est là, on bavarde. Hein. Si on nous coupe l'eau pendant 24 heures ou 2 jours, on va vivre. Hein. On va se plaindre au départ, mais on va se rendre compte qu'à force de se plaindre, ça crée de la salive, on commence à avoir ça. Donc on commence à se coucher, on dort un peu tranquille. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Le corps humain s'adapte. Le corps humain, c'est une machine tellement puissante et on n'a même pas encore, je pense qu'on ne connaît même pas la puissance du corps, de ce qu'on appelle le corps humain. Donc, si pendant 3 mois, tu portes pour un exercice précis 3 kilos, au bout d'un moment, ton corps connaît et reconnaît. Donc, ton corps s'est déjà adapté et habitué. Maintenant, si tu veux que ton corps continue à travailler avec ces 3 kilos, tu vas devoir soit augmenter la fréquence, soit corriger le tempo. Ça peut aller plus rapidement, hein, ou ça peut aller plus lentement, et maintenant corriger aussi la durée. C'est comme ça que tu modifies l'intensité d'un exercice.
Okay.
Voilà. Tu vois? Donc, avec les 3 kilos, tu peux continuer à faire des progrès, mais tu seras bloqué à un moment donné, tu vois. Et comme je venais de le dire, tu modifies l'intensité d'un exercice avec ces 3 choses-là. La durée pendant laquelle, la durée d'exécution de l'exercice et avec le tempo. Et bien évidemment, le nombre de répétitions et ainsi de suite. Mais il faut à un moment donné sortir de là. Il y a des exercices que tu ne dois même pas faire avec de grandes charges.
Par exemple, quand tu es penché en avant et tu lèves les bras sur les côtés avec les haltères, tu prends les grandes charges, ça ne sert à rien. Ça ne va pas te faire gonfler les deltoïdes antérieurs. Mais prends une petite charge, tu me dis que tu montes en 5 temps, tu bloques en haut là pendant 3 secondes et tu redétends doucement. Je te parle là, moi, d'un mal. Parce que l'exercice... Et si on te dit qu'en 30, tu fais ça en 30 secondes, en 30 secondes, tu ne peux que placer une répétition, sachant que cette répétition-là, tu as d'abord mal jusqu'à. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Donc, oui, le corps s'adapte. Il y a des manières de modifier. À un moment donné, il faut changer de charge, tout en sachant qu'il y a certains exercices pour certains, certains travaux de finition. Quand je dis finition, c'est genre, si on veut avoir une épaule bien ronde, on veut avoir le deltoïde antérieur qui est bien luisant et tout, qui sort bien. Il y a des charges appropriées. Il y a des exercices que tu peux faire avec des charges lourdes et ainsi de suite, quoi.
Ok. En tout cas, je ne sais pas pour vous, hein, mais moi, quand elle parle, j'ai les étincelles dans les yeux tellement c'est beau. Alors, tout à l'heure, tu disais, et je crois que c'est également, j'ai cru voir une vidéo comme ça, beaucoup se plaignent de faire du sport, de ne pas perdre du poids. Parce que, et ne se rendent pas compte que l'alimentation est pour beaucoup. Qu'est-ce que tu recommandes, au-delà même de perdre du poids? Parce que, dans l'affaire, autant on fait du sport pour être en forme, autant on mange, autant on doit manger sain pour être en forme. Qu'est-ce que tu recommandes? Qu'est-ce qu'on doit manger pour être en forme, pour être bien dans son corps?
Ce qu'on doit manger pour être bien dans son corps, c'est manger la modération. Je préfère dire manger la modération parce que ce qui nous tue, en fait, c'est l'excès d'une chose ou d'une autre. Tu vois? Il n'y a pas de mauvais aliments. Pour moi, il n'y a pas de mauvais aliments. À moins que ce ne soit un aliment chimique. Quand je dis chimique, c'est quand ils ont fabriqué, ils ont mis les trucs dedans, eux-mêmes, ils savaient que ce n'est pas bon. Tu vois ce que je veux dire? Mais il n'y a pas de mauvais aliments. On privilégie, pour ma part, tout ce qui vient de la terre. Donc, on s'éloigne des boîtes de conserve. On privilégie ce que, ce que quelqu'un a planté, qui a poussé, qui a produit, qu'on a coupé, qu'on a gardé. Hein? Donc, tout ce qui est légumes, tout ce qui est fruits, tout ce qui est macabo, manioc, patate, plantain et tout machin. Même l'huile, hein? L'huile de palme, on utilise les noix de palme pour les faire. Malgré toutes les études qui sont venues saboter cette huile-là, ma grand-mère a cuisiné avec jamais de problème, mes grands-parents, arrière-arrière, jamais de problème. All of a sudden, out of the blue, parce qu'on veut commencer à vendre une autre huile, on commence à dire que l'huile de palme pose des problèmes. Mais c'est pour ça que je parle de consommer la modération. Oui. Je dis souvent à mes athlètes, il faut choisir vos combats. Tu ne peux pas être que c'est ta propre bouche qui s'assied pour manger un burger avec les frites, la mayonnaise, le ketchup, le machin. C'est cette même bouche-là pendant ce même repas qui prend le top et boit. C'est obligé. Ça ne peut pas attendre. Hein? Tu es obligé de faire ça tous les jours. Non. Donc, manger la modération. Tu sais, on peut maigrir en mangeant des pizzas. On peut maigrir en mangeant des burgers. Mais, nous, on voit que c'est la perte de poids, mais ta santé qui est derrière. Je te dis, il y a des gens qui sont minces, qui souffrent de diabète 2. Pas 1, 2, type 2. À cause du sucre. À cause de la glycémie. Tu vois ce que je veux dire?
Oui.
Mais on se dit que le but, c'est d'être mince. Mais ce n'est pas ça le but. Le but, c'est peut-être de perdre du poids, ne pas être en surpoids, mais d'être en santé. Du coup, on ne va pas chercher à maigrir de manière drastique. Parce que même là, on brutalise le corps humain et on dérègle le métabolisme. Et on ne va pas non plus chercher à... Comment dire ça? On va aussi se dire que oui, comme l'autre mange mal et est mince, moi aussi, je vais manger mal et je vais rester mince. On n'a pas les mêmes organismes. Il faudrait que chacun soit à même d'identifier ses points faibles, ses points forts, ce qu'il doit changer. Je dis, on consomme la modération. On peut manger camerounais du 1er au 31 et maintenir son poids et ne pas être une proie pour les maladies comme l'hypertension, le diabète et tout le reste que tu peux imaginer. Tu vois, maintenant, les gens vont te dire que oui, mais tu as parlé de manière générale, quel aliment?
Je vous ai dit, tout ce qui sort de la terre, les légumes, les féculents, le poulet, le poisson, machin, la viande rouge, franchement. Moi, dans mes programmes nutritionnels, et ça, je le dis à tout le monde, parce que les gens se disent que non. Quand quelqu'un dit que non, moi, j'ai le secret pour maigrir. En fait, toi, tu as le secret pour maigrir encore les obèses dans le monde. J'ai le truc pour maigrir encore les obèses dans le monde. Tu as la cuisine pour maigrir, il y a encore les obèses dans le monde. Tu vois ce que je veux dire?
Oui.
C'est pour dire quoi? Il n'y a pas de secret dans la perte de poids. C'est l'énergie que tu dépenses contre l'énergie que tu consommes. Et quand tu dis ça, on se dit que ah bah tiens, ça veut dire qu'il faut que je réduise exagérément mes portions de nourriture. Mais parfois, ce n'est pas ça. Parfois, c'est juste les 4 louches de riz que tu as liées dans ton plat là. Enlève 2 louches, tu remplaces par des légumes, tu remplaces par une salade. La sauce que j'ai l'habitude de cuisiner avec 5 litres d'huile. Au lieu de faire une sauce où j'écrase tout, laisse-moi découper cela. Parce que quand tu découpes, c'est une portion de légumes que tu as. Par contre, quand c'est en sauce, n'est-ce pas, tu puises avec la louche et il y a l'huile dedans. Tu puises tout ça, tu mets dans ton plat. Tu vois ce que je veux dire?
Oui.
C'est des habitudes. Hein? C'est des habitudes aussi, j'ai envie de dire, banales qu'on a, mais ça cache beaucoup de choses derrière.
J'ai envie de t'emboîter le pas en disant qu'en tant qu'Africain et en tant que bon Camerounais, quand tu fais le coq et quand il n'y a pas une tonne d'huile rouge ou bien quand il n'y a pas beaucoup d'arachide, toi-même tu sens que le coq là n'a pas le goût.
Mais on ne demande pas de ne pas préparer sans huile. On ne demande pas de ne pas préparer sans arachide. Laisse-moi te dire que les arachides sont très, très, très bons pour la santé. Mais maintenant, tu ne vas pas me dire que tu vas manger ce même au coq là le lundi, le soir, mardi midi, mardi soir, mercredi midi, parce qu'il faut aussi varier. Tu vois? Et quand les gens mangent, ils ne veulent, je suis en train de te dire, le problème parfois c'est pas le manger, hein, c'est la quantité.
La quantité.
Oui, quand on prépare, on ne voit pas l'huile et tout, mais si je te mets cette huile là dans une tasse, tu dis que bois, tu ne vas pas boire. Donc pourquoi ça se retrouve dans ton plat? Pourquoi ça se retrouve dans ta marmite?
Oui.
Moi, j'ai des gens qui m'ont fait ça. J'ai dit, OK, donne-moi. Tu me donnes, je mets dans la tasse, je te donne boire. Mais tu ne bois pas. Mais quand c'est pour prendre le watafoufou là, pour faire glisser dans ton plat de héros, la boule coule comme ça dans ton assiette, tu es content. Que non, il faut que l'huile coule, que ça glisse. Mais c'est ce que tu manges. Mais tu es incapable de boire cela. Ça veut dire qu'il y a un problème quelque part. Tu vois? C'est encore la modération.
Cet entretien est en train de virer un film d'horreur. Parce que vraiment, la partie où tu dis que mets l'équivalent de l'huile là dans une tasse, puis tu bois, c'est tellement... C'est une vision d'horreur. Je suis désolée, excusez-moi, mais je vous dis comment est-ce que je vois ça. Et c'est vrai que quand on remet les choses dans cette perspective-là, le H, le dolet, le coq, c'est pas grave s'il n'y a pas de l'huile, quoi.
C'est pas grave. Ce que je veux dire, tu sais, tu peux cuisiner avec ça. Après, c'est du gaspillage. Il faut qu'on soit sincère. C'est du gaspillage. Moi, je réussis à cuisiner tous ces plats-là, où je réussis même à voir des gens cuisiner ces plats-là pour moi, sans toute cette huile. Et même quand tu as ce truc, tu sais que parfois, quand tu commences à te servir le coq, l'huile reste sur un côté.
Oui.
Et l'autre côté n'a pas d'huile. Mais toi, tu vas aller puiser où il y a l'huile. On t'a envoyé. Tu vois ce que je veux dire?
Oui.
Il faut à un moment donné se dire que ça va la nourriture ne finit pas.
Mm-hmm.
Ça va au-delà du goût. Ça va au-delà Et quelque part même, c'est de l'égoïsme. Parce que cette huile-là, même l'huile que tu as cuisinée, si je te dis, OK, ta maison, ta marmite, le ndolet, je mets l'huile là qui a toutes les épices, qui est mélangée à de l'eau, que bois, tu ne pourras pas boire. Tu vois ce que je veux dire?
Oui.
Donc pourquoi ça se retrouve dans ton plat? Non, je ne vais pas manger, mais quand on finit la marmite, il n'y a pas de coup d'huile en bas, donc forcément les gens ont mangé.
Et en tout cas, je ne sais pas pour les autres Africains, mais c'est vraiment terrible comment au Cameroun, pour certains repas, si l'huile ne dépasse pas l'élément principal, les gens ne sont pas contents.
Non, c'est que la nourriture ne brille pas, ça veut dire que c'est même pas intéressant.
Elle a donné l'expression, la nourriture ne brille pas. Il faut que ça brille, il faut que ça étincelle. Et l'indicateur de brillance, c'est la quantité d'huile. Mais bon, elle a dit ce qui est frais, ce qui sort de la terre, ce qui n'a pas été transformé et la quantité. À quel moment intervient le rééquilibrage alimentaire?
Alors, bon, moi, quand j'ai des gens qui m'approchent, je veux maigrir, je veux faire du sport, je veux un régime, je ne leur donne pas tout tout de suite parce que j'estime que ça va faire beaucoup dès le départ pour des gens qui n'ont pas de bonnes habitudes. Mais je me suis rendu compte que quand quelqu'un commence à faire de l'exercice physique, de manière très inconsciente, la personne commence à modifier un petit peu son alimentation. La personne peut encore avoir quelques mauvais gestes à cause des mauvaises habitudes. C'est normal. Moi, j'en ai encore, bien que après plusieurs années, je coache les gens et ainsi de suite, tu vois. Mais quand quelqu'un commence à faire de l'exercice physique, comme je le disais, de manière très inconsciente, la personne commence à changer son alimentation. Et maintenant, là, tu as deux cas de figure. Tu as celui qui change dans le mauvais sens et puis tu as celui qui change dans le bon sens. Celui qui change dans le mauvais sens, c'est parce qu'il se dit en fait que comme je fais le sport, ça va compenser, donc je peux manger ce que je veux. Je ne peux pas grossir parce que je fais le sport. Et l'autre personne, c'est en mode, gars, je ne peux pas souffrir comme ça, ça peut venir encore mal manger. Il faut savoir que ce qu'on consomme affecte nos performances sportives et affecte notre humeur. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Ça affecte notre humeur, ça affecte nos performances sportives. Maintenant, comme tout à l'heure, je disais, quand tu commences avec le sport 3 fois par semaine, je te donne 1 mois, 2 mois. Au bout de ces 1 mois, 2 mois-là, si tu es assez stable et que tu... pendant ces 1 mois, 2 mois, tu vas te rendre compte que tu as perdu du poids. C'est aussi ça. Tu vas te rendre compte que tu as perdu un peu de poids, des centimètres. Tu rentres dans certains habits plus facilement et ainsi de suite. Et après ces 2-3 mois-là, ou 2 mois, je te dis, bon, OK, on va passer à la partie nutrition. Et pendant ces 2-3 mois-là, je te demande de me faire un rapport de tout ce que tu manges. Parce que le but n'est pas de te donner un régime. Le but n'est pas de te dire que voici comment tu dois manger. Non. Le but est de savoir ce que tu fais mal et de corriger. Parce que ce sera plus facile pour toi de garder ces habitudes-là que de te donner un régime comme ça et te dire, bon, prends ça lundi, tu manges ça mercredi, tu manges ça mardi, tu manges ça ainsi de suite. Là, tu n'apprends pas grand-chose. Par contre, si tu sais qu'au lieu d'écraser ma tomate, mes oignons et tout au Moulinex, ou tu sais, nous tous les écrasons, on appelle ça Moulinex, c'est sans but, bien sûr. Au lieu d'écraser à la machine et tout, à l'écraseur et tout, je vais les découper et je vais les mettre dans la marmite comme ça, sans mettre beaucoup d'huile et ainsi de suite. Ce sont des petites habitudes que tu changes et ça change ta manière de voir les choses. Ça t'aide avec même propre quantité, tu vois. Donc, je vais demander à la personne de me faire un rapport sur une semaine, ce qu'elle mange, je vais corriger. Et maintenant, si on veut encore pousser la chose un peu plus loin, je te propose un de mes programmes là, par exemple le programme Bell 90, qui est en cours, et qui va de 12 semaines. Tu le prends, tu le fais à ton pace, et tu apprends ce que tu apprends. Parce que moi, l'objectif, c'est, je dis encore, il faudrait que tu apprennes. Nous, on se dit en fait que notre vie dépend de nous. Maintenant, quand tu as des enfants, tu as des collègues, tu as de la famille, tes soeurs, tes frères, et ainsi de suite. Ce que tu apprends peut aider toutes ces personnes autour de toi. Donc, c'est comme ça que moi, je nous opère. Je te dis, je ne suis pas un coach minceur. Moi, je veux changer les habitudes, la manière de voir certaines choses. C'est ce que moi, je veux changer.
Quelle est la place de l'eau dans une alimentation saine?
L'eau, c'est la vie. Point final. On ne discute pas. Et l'alcool, ce n'est pas de l'eau. Point final.
Le coca, non plus.
Le corps humain, 70% d'eau, tu veux discuter de la place de l'eau dans la vie?
Non, mais en fait, c'est que beaucoup ne réalisent pas que, en fait, il faut boire de l'eau. Que l'air de rien, ce n'est pas parce qu'on a dit qu'il faut boire des liquides que si tu as bu 2 litres de coca, ta vie est calée, quoi. Il faut de l'eau. Et non, de l'eau avant autre chose.
De l'eau. Moi-même, parfois, quand je dis aux gens, ouais, tu dois boire 2 litres ou 3 litres, ah, coach, le thé compte. Je dis que le thé va compter au-dessus. Mais de l'eau. Mon plus gros challenge, moi, personnellement, ça fait depuis 2012 que je fais du fitness et tout, machin. Mon plus gros challenge, c'est de boire de l'eau sans que je ne parte en salle. Donc, un jour de repos, comme ça, me lever le matin, ouvrir la bouteille d'eau pour boire, c'est le combat. Mais chaque fois que je dois sortir de la maison, je sais que je vais ouvrir le frigo. Et quand j'ouvre le frigo, je sais qu'il y a une bouteille d'eau qui m'attend. Donc, je pense systématiquement à la bouteille d'eau. Mm-hmm. J'arrive au boulot à 8 heures. Je n'ouvre pas la bouteille d'eau avant 11 heures. Ça, c'est mauvais. Tu vois? Mm-hmm. Mais j'ai au moins la bouteille d'eau pour me rappeler que, ma chère, tu montes du disant que tu dois me boire. L'eau, c'est super important. Quand toi-même, tu bois l'eau, il y a des gens qui disent non, je n'aime pas le goût de l'eau. Il n'y a pas de problème. On ne t'a pas demandé d'aimer. On n'est pas là pour ce que tu aimes et ce que tu n'aimes pas. On est là pour ce qui est bénéfique pour toi. Le lait qu'on donne à l'enfant quand il est petit, c'est de l'eau dans laquelle on met de la poudre. Mm-hmm. Pour dire que c'est l'eau la base. Oui. Tu vois? Le lait maternel, s'il sortait en poudre, on devait encore le diluer pour que l'enfant mm-hmm. le consomme. Mm-hmm. Tu vois? Ouais. C'est de l'eau. C'est pas du coca. Les tisanes, c'est bien. L'eau avec un peu de citron, ok, si ça peut te permettre de boire plus, ok, c'est bien. Mais l'eau a une place primordiale. Ce que les gens ne se rendent pas compte, que le fait d'être déshydraté diminue même tes performances, diminue la fluidité de tes mouvements, a un impact sur tes articulations, le fonctionnement de tes articulations. L'eau transporte les nutriments d'un point à un autre dans le corps. Ça t'aide à détoxifier le corps. Mais les gens vont te dire que non, je fais une cure détox, je mange les épinards, je bois le jus vert, je bois le jus orange. Mais quand tu regardes les épinards, Ils sont conçus à base de quoi? C'est de l'eau qui est dedans. Mm-hmm. C'est pour ça qu'on demande de boire, de beaucoup consommer les légumes verts. Tous les légumes verts, là, on demande d'en consommer. Pourquoi? Parce qu'ils sont faits principalement d'eau. À 90% c'est de l'eau. Mm-hmm. Tu vois? Donc, au lieu de chercher à consommer les dérivés, pourquoi ne pas consommer la source qui t'apporte bien plus de bénéfices? Parce que ce qui est bien dans les légumes, c'est que tu as les fibres. Ce qui est bien dans les fruits, c'est que tu as le sucre et les fibres. Mais l'eau, c'est la base de tous ces éléments qu'on t'encourage à consommer pour un mode de vie sain. Mm-hmm. Donc, il faut apprendre à boire de l'eau. Au début, c'est difficile. Il faudrait que chacun trouve un moyen. Certaines personnes vont mettre des concombres, mettre du citron, mettre une orange et ainsi de suite. Si c'est ce qu'il te faut pour boire de l'eau, il n'y a pas de souci. Mets-en. Mais les affaires que tu peux acheter, l'eau à la boutique, on dit que c'est l'eau citronnée qu'on vend dans la bouteille de la boutique. Quand toi-même tu bois ça, tu sais que ce n'est pas le même goût de ton eau qu'on a à la maison. Ça te dit ce que ça veut dire.
Moi, si je peux donner une astuce, ce que je fais, en fait, quand j'allais en salle, déjà ma bouteille en salle faisait 1 litre que je m'arrangeais à terminer pendant mes 2 heures de travail. Et ça, après, c'est parce que... On dit que quand tu ressens déjà la sensation de soif, c'est que tu es déshydraté et ce n'est pas bon. Voilà, c'est exactement ça. Et j'ai une astuce. Ça me met un peu mal à l'aise d'en parler comme ça parce que même si je l'avais écrit sur Instagram, je le fais mais vraiment dans la vraie vie. Quand je vais aux toilettes pour faire pipi, tu finis de faire pipi, je me retourne pour voir la couleur de mes urines. Quand c'est déjà foncé un genre là, moi-même je comprends que je n'ai pas bu assez d'eau et je me rue vers la bouteille d'eau pour corriger ça parce que quand je vais aux toilettes, il faut que ça ait plus ou moins l'eau qu'il y a à l'intérieur, ça doit être clair. Tant que mes urines ne sont pas claires, je ne suis pas contente et je sais que je n'ai pas bu assez d'eau. Donc...
En fait, tu sais, le souci avec l'eau, c'est que chaque personne a, en fonction de ses objectifs aussi, mm-hmm. un minimum de litres et un maximum qu'il devrait boire par jour. Oui. Après, chercher à avoir de l'urine ultra claire, ce n'est pas aussi bien parce que ça donne, boire beaucoup, donne aussi beaucoup de travail au foie. Mais moi, ce que je conseille, c'est d'essayer au moins d'avoir 1,5 litre d'eau par jour quand il n'y a pas d'activité sportive et surtout quand on vit dans un pays chaud, mm-hmm. tu vois. Mm-hmm. Et maintenant, une astuce pour boire plus d'eau, j'en ai parlé tout à l'heure, mais il faut se rappeler qu'il faut boire de l'eau. Parce que si tu ne bois pas de l'eau, tu bois les taupes, mais ça compte. Non, ça ne compte pas. Dans cette taupe, il y a du sucre et des produits chimiques. Mm-hmm. Ça rend malade. Allons mm-hmm. à la source. Tu vois, les Européens ont couru pour faire les trucs en conserve et ainsi de suite. Après, ils sont tournés, ils disent que, hey, le mieux, c'est quoi aujourd'hui? C'est le bio. Donc, allons vers les produits qui sont faits naturellement et tout, et tout, et tout, et tout. Nous, je ne sais pas, nous on évolue toujours un jaja chez nous. On copie toujours le mauvais côté. Ou on voit même qu'eux-mêmes, ils ont suivi le mauvais côté, mais nous, on veut suivre le mauvais côté. Mm-hmm. Donc, pour moi, franchement, c'est un combat que j'ai, tu vois. Donc, quand j'en parle, ça me fait rire parce que je dis aux gens, buvez. Tu as vu aujourd'hui, tu n'as pas bu. Parfois, même monsieur, là, la bouteille me regarde, je regarde la bouteille. Ça peut vraiment être difficile, mais une fois qu'on a compris pourquoi on doit boire de l'eau, on doit se faire violence. L'autre là, on doit se faire violence. C'est pas comme le sport qui dit que non, t'es pas sur l'est. L'autre là, on doit se faire violence.
Et ce qu'il y a en plus de superbe avec l'eau, c'est que c'est zéro calorie. Si
Thomas, tu peux même boire ça de janvier à décembre, tu ne vas jamais grossir avec l'eau. Même la salade peut te faire grossir, mais l'eau ne va jamais te faire grossir. C'est ça.
C'est ça. Ah, mais justement, tu fais bien de parler de la salade qui peut faire grossir, parce que je me souviens qu'une fois, tu avais fait une vidéo où tu parlais de ça, où tu disais que les gens qui achètent des sauces vinaigrettes à je ne sais pas où là, viennent doser ça sur la salade en disant qu'ils sont en train de manger la salade. C'est dangereux, c'est ça?
Encore, ce sont des produits qui sont fabriqués quelque part par des gens qu'on ne connaît pas. Mm-hmm. On leur donne toute la confiance du monde pour nous faire manger et s'occuper de notre santé. Amine, on les connaît où? Est-ce qu'ils ont un engagement? Est-ce qu'ils ont un contrat pour mm-hmm. s'assurer que nous, on reste en santé après avoir consommé tout cela? J'ai parlé dans cette vidéo-là, je me souviens de la vidéo dont tu parlais, des vinaigrettes industrielles mm-hmm. et des vinaigrettes que nous-mêmes, on fait à la maison. Mm-hmm. Nous, on veut montrer que nous, on a dépassé les chefs. On prend le ketchup, on met dans la mayonnaise, on met dans la moutarde, on met le yaourt. D'autres, même, il y a une qui m'a dit que, oh, parfois, je mets même le sirop. Quand elle m'a dit ça, je l'ai appelé sur WhatsApp pour que la mère, tu dis que... Non, je l'ai appelé. J'ai appelé. Même celle qui m'a dit qu'elle mettait le ketchup, je l'ai téléphoné, j'ai dit qu'attends un peu. Tu dis que tu mets le ketchup pour faire la vinaigrette, comment? Et elle te met l'huile, après elle te met le vinaigre, après elle te met, d'autres même t'ajoutent le vin, après elle te met le citron. Tu dis que mais pourquoi vous aimez embrouiller vos papilles? On vous a appris ça où? On vous a appris ça où? Tu vois, on prend de la laitue. Je dis qu'il y a pratiquement zéro. Si tu manges, j'ai envie de dire 80 grammes de laitue, tu es plein. Tu es complètement plein. Je parle plein, genre de manière générale pour tout le monde, homme-femme. Tu es plein. Mais toi, tu vas prendre ça, tu vas ajouter une vinaigrette. Et tu vois, ce qui est encore marrant, c'est qu'on n'ajoute pas la cuillère de la vinaigrette. Hein. C'est même pas la cuillère. On ajoute la louche. Où on a mis 2 cuillères de mayonnaise, 2 cuillères de ketchup, 2 cuillères de moutarde et tout. Donc, tu commences bien, tu gâtes à la fin, quoi. Parce que le ketchup industriel, il y a du sucre dedans. Mm-hmm. La mayonnaise industrielle, il y a parfois du sucre et il y a des éléments chimiques dedans. Mm-hmm. Les gens, alors qu'ils tuent, ils prennent, ils mettent encore le cube dedans. Et puis, ils se mettent, voilà. L'autre m'a dit que, ah, tu as oublié de dire que je mets l'arôme magique. J'ai dit, pardon. Pour une vinaigrette qui va entrer dans une bouche, il ne faut pas exagérer, quoi. Moi, je préconise de faire les choses très simples. Quand c'est chargé, on embrouille. Et c'est comme ça qu'on embrouille nos papilles. Ce qui fait qu'aujourd'hui, même quand on boit de l'eau, je n'aime pas de l'eau, de boire de l'eau. Pourquoi? Parce qu'on a eu tellement l'habitude de consommer ces choses-là qui sont remplies de produits chimiques, qui sont remplies de différents produits, au point où ça nous a, j'ai envie de dire, désaxé complètement le système gustatif. Mmh. Et aujourd'hui, pour rééduquer en fait nos papilles, ça prend plus de temps. Tu peux faire une vinaigrette toute simple. Tu as 4 ingrédients, tu fais ta vinaigrette toute simple. Tu peux même utiliser la mayonnaise industrielle pour faire ta vinaigrette, mais tu la fais toujours aussi simple. Et quand tu te sers, ce n'est pas te servir la tasse de café de vinaigrette. Ah, easy. Il faut que ce soit mouillé. Donc, on finit avec l'huile maintenant. C'est la vinaigrette qui nous sert d'huile maintenant. Il ne faut pas quand même déranger.
Depuis que je suis tombée sur cette vidéo, mes vinaigrettes sont très simples. Un peu d'huile d'olive, un peu de vinaigre balsamique. Et le tout est joué. Bon, après, je dois l'avouer, j'adore la sauce barbecue. Bon, je ne verse pas avec les louches, mais de temps en temps, pour relever un peu le goût, je rajoute la sauce, je rajoute la sauce barbecue. Mais bon, pour terminer ce chapitre, les mots clés, c'est de l'eau, beaucoup d'eau, mais pas trop d'eau pour ne pas fatiguer le foie. Ça, j'aurais appris. Ensuite, la modération,
la modération.
Mais après, Mel, moi, j'ai un problème. Et je suis sûre que beaucoup d'entre nous avons ce problème-là. Parfois, tu manges. Non, toi, tu as bien, Charles. Tu as l'impression que tu es calé. Mais tu restes comme ça. Et puis, tu penses à un truc. Tiens, j'adore le chocolat. J'ai toujours ma réserve de chocolat, choco camissé à la maison, de pâte à tatiner. Et puis, tu restes comme ça. Et puis, il y a cette voix dans ta tête qui te dit, mais pourtant, s'il y a le chocolat qui est ici, là, on fait comment? Ça se termine en général, la cuillère dans le pot de chocolat, et puis je mange. Comment est-ce qu'on fait pour contrôler ces envies de grignotage ou...
Voici ce que je disais souvent à certains de mes athlètes. Tu me parles fort, et pourtant le gâteau, une tranche de gâteau te menace, tu veux parler fort à qui? Tu comprends ce que je suis en train de dire?
Oui.
Voilà. C'est pour te dire quoi? Les pulsions, on en a tous. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, modération, déjà. Pas qu'il faut tout bannir d'un coup, sauf si tu suis un programme particulier comme mes programmes. Pendant un moment, je dis que mon ami, pendant 30 jours, on va se faire violence, on ne consomme pas ces choses-là. OK? Oui. Mais tout dans la modération. J'ai une boîte de chocolat, mais elle n'est pas chez moi. Elle est au bureau. Tu vois? Il y a des moments où j'ai juste envie de manger du pain avec du lait concentré. Je vais aller acheter une boîte de lait concentré. Je vais la finir là. Et puis, on va encore se voir peut-être dans 6 mois. Le danger, c'est quand ça devient récurrent. Si tu le fais une fois comme ça en passant, quand je dis une fois en passant, ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, c'est l'envie de lait concentré. Demain, c'est tatina. Après-demain, c'est... Les lus, le jour d'après, c'est le gâteau à la crème d'une boutique, et ainsi de suite. Quand je dis une fois en passant, c'est genre, tu fais ça une fois par semaine, et puis basta, ou une fois toutes les 2 semaines, ou une fois tous les mois, ça passe. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Mais si c'est quelque chose, si pour chacune de tes pulsions, tu succombes, ça veut dire que tu n'as pas entraîné ton esprit ou ton mind à résister. Et ça, c'est pas bien. Tu ne résistes pas à quelque chose que toi-même tu achètes de ton argent. Tu ne résistes pas à quelque chose qui peut potentiellement te rendre malade ou te tuer. Il y a un problème quelque part. C'est pour ça que quand on me dit que oui, mais mes enfants n'aiment pas ci, mes enfants n'aiment pas ça. Oui, ils peuvent ne pas aimer, je suis d'accord. Mais toi, tu le dis même avant de leur avoir donné. Tu le dis même avant de leur avoir donné 1, 2, 3 fois. Tu le dis même avant d'avoir essayé 100e fois. Parce que le premier jour, ils ont dit qu'ils n'aiment pas. Tu es resté ça, il n'aime pas. Mais qui est le parent dans la maison? Entre toi et le gâteau, qui menace? Tu vois ce que je veux dire? Tu vas me dire que non, mais c'est pas le gâteau, c'est une affaire de pulsion. Encore, tu peux dire à tes pulsions, mes chers, aujourd'hui là, non, c'est ton problème. Si tu veux, tu me donnes envie comme tu veux, je vais manger la nana. Oh, attends, il y a eu des moments où je voulais manger le chocolat, j'ai parti prendre le thé, j'ai mis le miel dedans, il dit que tu vas boire le miel aujourd'hui. Tu vas boire le miel, ça te regarde. Si tu as envie du chocolat, c'est ton problème. Et tu vas te rendre compte que si à chaque fois que tu as une pulsion, tu commences à parler à cette pulsion-là, au fur et à mesure, elle ne sera pas aussi violente. Oui. Ça prend du temps, Il y aura des fois où tu vas tomber, ça c'est clair. Mais le but est de consommer, d'avoir ces écarts de manière très écartée. Quand je dis très écartée, ça veut dire une fois peut-être tous les mois, ou une fois tous les 2 mois, ou une fois tous les 3 mois, tu vois. Et de réussir à se dire que j'ai voulu manger ceci aujourd'hui, mais je me suis retenue. C'est une victoire. C'est une très grande victoire. L'homme qui réussit, on dit que l'homme qui réussit à contrôler sa langue a le meilleur contrôle de lui-même. Je ne sais pas comment la Bible le place. Mais la Bible dit que celui qui réussit à contrôler sa langue a un très grand self-control. On se dit que la langue, c'est parce qu'on parle. Mais la langue aussi, c'est celle-là qui nous dit, OK, si je mange un truc sucré, je suis content. Si je mange un truc salé, je suis un peu bizarre. Si je mange un truc acide, je me froisse. Tu vois ce que je veux dire?
Oui.
Donc,
C'est un travail qui se fait tout doucement et pas de manière brutale. Et comme je le disais, si tu suis un programme particulier qui te demande de ne pas manger ces aliments-là, il faudrait que l'apport de ces aliments-là, dans cette sensation que tu recherches dans ces aliments-là, tu les retrouves dans d'autres aliments du programme que tu es en train de suivre.
Mm-hmm.
Parfois, on veut manger, on veut manger du sucre et tout machin. Quand tu manges l'avocat, cette envie de sucre disparaît. On ne s'en rend même pas compte.
Ok.
Jeudi dernier, si tu as vu mon vlog jeudi dernier, j'ai mangé deux avocats ce jour-là. Je ne me suis même pas plaint que j'avais faim. Et pourtant, moi, championne de j'ai faim.
Donc, maintenant, les programmes que tu proposes, je crois qu'il y a Mel 90, il y a Belémos Go, je crois que c'est l'un des plus célèbres. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus?
Je vais commencer par le Belémos Go. Lui, il ne sort qu'à à partir du mois de septembre. Mm-hmm. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont levés en janvier. Oui, je vais maigrir. Oui, je vais faire du sport. En février, ils avaient déjà abandonné. Ils ont essayé de recommencer en mars. Ça ne donnait pas. Mm-hmm. Après, juin est revenu. Ils ont dit que non, c'est l'été. On enjoy d'abord. On est en vacances. On profite du soleil.
Ouais.
Avant qu'ils ne s'en rendent compte, on est déjà en septembre. Le ventre se pointe devant. L'hiver mm-hmm. arrive et il y a les mariages.
Ouais.
Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Opération Belémos Go, parce qu'il faut que quand on porte nos habits pour les cérémonies et tout, que rien ne déborde. Donc, le programme sort entre septembre et octobre.
Ouais.
Il va sur 8 ou 10 semaines, donc en fonction de l'année.
Mm-hmm.
Et c'est un programme, c'est un peu aussi un rééquilibrage alimentaire parce que je donne aussi beaucoup d'instructions dedans.
Oui.
Mais tu as un menu que tu suis, hein, comme tous les programmes hein, de régime pour les uns, rééquilibrage alimentaire pour les autres. Mais moi, j'appelle mes programmes rééquilibrage alimentaire parce que je donne beaucoup de conseils dedans et je demande aux gens d'être... Moi, je dis dans mes programmes, va sur Google. Parce que en un seul programme de 50 pages, on ne peut pas tout te dire. On ne peut pas te donner toutes les idées de recettes. Tu vois, il faut être curieux. Et c'est cette curiosité-là qui fait en fait que tu réussis à être indépendant après quoi. Parce que le problème avec les programmes de perte de poids, c'est qu'on te dit ce que tu manges et quand tu dois les manger, parfois ça ne t'adapte pas à ta zone géographique. Tu imagines quelqu'un qui vit ici au Cameroun, qui ne connaît pas Spar, qui ne connaît pas Super U, je ne sais pas trop quoi, tu lui dis qu'il faut qu'il mange le jambon de dinde. Il va aller demander ça où? Chez le gars qui vend le soya à côté, ou chez le boutiquier à côté. Le boutiquier connaît le saucisson. Tu vois ce que je veux dire? Donc, mon programme s'adapte surtout à ceux qui vivent au Cameroun, et les Camerounais qui sont à l'étranger, mais tout Africain peut se retrouver parce que je pense qu'on a les mêmes feuilles, les mêmes légumes et tout machin. Et je parle généralement brièvement de nos repas camerounais.
Oui.
Donc, ce programme la combine sport et alimentation. Il dure 8 à 10 semaines. Maintenant, le MEL 90, c'est un rééquilibrage alimentaire de 12 semaines. Donc, c'est un peu plus long, bien plus long, hein, pas un peu plus long, de 5 semaines quand même, un peu plus long que le Belémos Go.
Oui.
Il est venu en phase. Dans ces différentes phases, tu apprends sur les différentes manières de manger. Parce qu'aujourd'hui, tu as des gens qui vont te dire qu'ils ne mangent pas de viande, d'autres qui vont te dire qu'ils ne mangent pas de poisson, d'autres qui vont te dire qu'ils ne mangent pas de poisson et de viande, d'autres qui vont te dire qu'ils ne mangent pas de féculents, d'autres qui vont te dire qu'ils ne mangent que des graines et des légumineuses et ainsi de suite. Donc, ce programme-là te t'aide à parcourir toutes ces manières de manger.
Oui.
Parce qu'il faudrait que tu réussisses à savoir quelle est la phase et quel est le type d'alimentation qui te convient pour ton mode de vie actuel. Parce qu'en fonction de où on se situe, en fonction de la période de vie qu'on est en train de traverser, notre alimentation est appelée à changer, appelée à être affectée par tous ces changements-là. Tu vois? Donc, là, c'est juste de la nutrition, il n'y a pas de sport. Bien qu'il y ait une page qui te donne des instructions et des recommandations sur les entraînements que tu peux faire à la maison, et ainsi de suite.
Mm-hmm.
Mais c'est un programme que tu peux prendre. Tu as déjà un programme à côté, sportif à côté, tu le fais tranquille, quoi. Tu le fais chez toi. Tu peux le faire en 12 semaines, comme tu peux le faire en 14 semaines, comme en 18 semaines. Ce que je dis généralement aux gens, c'est que tu prends une phase, tu la commences. Si tu vois que tu as merdé, déjà exagérément merdé pendant la phase, prolonge d'une semaine, tu vois. C'est pour ton propre bénéfice, parce qu'il faudrait que les habitudes et les instructions soient bien assimilées pour que demain ou après-demain, tu puisses fonctionner dans le monde. Si on te jette là dehors, tu puisses te dire « Ok, maintenant je peux m'en sortir ». Je peux perdre du poids ou je peux maintenir mon poids sans toutefois avoir besoin d'acheter un programme nutritionnel.
Est-ce que tu as d'autres programmes?
Pour l'instant, non. Je travaille sur autre chose. La science n'a pas beaucoup changé en termes de... Et il faut bien le regarder, hein, la science n'a pas beaucoup changé en termes de santé, perte de poids et tout machin. Mm-hmm. C'est toujours manger moins ou manger mieux, bouger plus. Donc, on peut sortir avec 10 000 programmes, on va tweaker un day, mais le fond restera pareil, tu mm-hmm. vois. Donc, ouais. Je me concentre plus sur les séances de sport parce que c'est là-bas qu'il y a le vrai challenge. Là-bas, tu peux te dire que oui, j'ai porté 50 kilos hier, aujourd'hui, je vais porter 60. Dans l'alimentation, tu peux te dire qu'OK, je fais une semaine sans manger de viande, je fais un mois sans manger de viande, je fais 4 jours par semaine sans manger de poisson et de viande, je mange que des légumineuses et des féculents et ainsi de suite. Mm-hmm. Ça tourne toujours autour de la même chose. Donc, je suis plus côté sport qu'alimentation. J'ai une notion d'alimentation parce que je me suis formée aussi un petit peu de ce côté-là. Je ne suis pas nutritionniste ni diététicienne. Mm-hmm. Mais maintenant, quand je rencontre des personnes qui ont des problèmes particuliers de santé qui sont liés à leur alimentation, je les dirige vers un diététicien nutritionniste avec lequel je travaille ou avec lequel j'ai travaillé sur mes programmes déjà. Tu vois?
Okay. Ouais. Donc,
c'est tout, hein? RIS.
Ok. Je crois que je voulais dire quelque chose. J'aurais dû l'aborder plus haut. Ce qui est bien avec le sport et Befoun qui nous a mis en contact me le disait à l'époque, je me plaignais, je reconnais qu'à l'époque je me plaignais énormément parce que je voyais ma vie en termes de poids, quoi. Je ne voyais que ça. Et un jour, elle m'a envoyé une photo où, tu sais, il y a cette personne bedonnante qui fait 70 kilos. À côté d'elle, il y a une personne, la même personne à 70 kilos, mais avec le sport mm-hmm. sculpté, quoi. Tu vois? Mm-hmm. Dire que parfois, on ne se concentre pas sur l'essentiel. Aujourd'hui, je n'ai pas atteint mon objectif kilo, mais mon corps est tellement... Tu sais, tu as l'impression que tout rentre à sa place, quoi. Comme ouais. si avant, tu dégoulinais de partout et à un moment, tout rentre à sa place et mm-hmm. tu peux faire 70 kilos, mais avoir l'air tellement mince que... Tu vas dire, je fais 70 kilos, mais moi, je dis non, attends, tu racontes des histoires, tu fais moins. Alors que Dieu seul sait, et la balance, et toi, que c'est 70 kilos de chair et d'os, mais parce que...
Et d'eau.
Mais parce que tu as raffermi ton corps, parce que tu es en train de travailler ton corps, tu as l'air de beaucoup moins. Tout ça pour dire qu'il faut être indulgent. Tout ça pour dire qu'il faut du temps, il faut de la patience. Mais tout ça également pour te dire vraiment merci. Merci pour la bonne humeur, merci pour les conseils, merci pour le franc-parler. C'est important.
On nous a vendu une idée du sport qui fait maigrir. Pas mm-hmm. que c'est pas vrai, mais comme je te le disais tout à l'heure, il y a des gens qui, quand ils commencent à faire du sport de manière très inconsciente ou même consciente, vont te dire que comme je fais le sport, je peux manger ce que je veux. Mais on peut être en salle de sport et on fait autant de sport qu'on veut et on grossit. Parce que je vais te dire, pour perdre 600 calories en une séance de sport, il y a tellement d'efforts à fournir. À mais pour ça, t'asseoir et manger les mêmes 1000 calories, ma chère, tu manges ça en 5 minutes, tu ne t'en rends même pas compte. Tu vois ce que je veux dire?
Oui.
Si tu regardes les menus Burger King et tout, là, je sais pas si je pense que tu dois avoir des gens qui sont à l'étranger, mm-hmm. regardez le nombre de calories sur un menu Burger King, même un menu normal. Vous allez voir des 400 calories, des 600 calories, des 800 calories, des 1000 calories plus. Si je te demande de faire une séance de sport pour brûler ne serait-ce que 500 calories en ouais, une seule séance de sport, mais mon frère, tu vas pleurer.
I know. C'est vrai ou plus.
Mais quand c'est pour manger là, tu manges les 500 calories sans regarder derrière, sans effort, sans transpirer, sans douleur. Et c'est de ça dont je te parlais tout à l'heure. Donc mais... maintenant, le sport va te permettre de perdre l'excès d'eau parce qu'on fait beaucoup de rétention d'eau dans la prise de poids. On fait mm-hmm. beaucoup de rétention d'eau. Mm-hmm. Et vu que tu portes les charges et tout, ça va raffermir ta peau. Ça va raffermir ta peau, raffermir, améliorer l'aspect superficiel, même parfois profond, hein, de tes cuisses. Parce que tu sais, dans les femmes, les cuisses gardent beaucoup de graisse. Mm-hmm. Les cuisses, le ventre, surtout le bas-ventre, la partie des reins, et tout machin là. Parce que nous, contrairement aux hommes, on a des hormones un peu un genre de façon. Chaque mois, on a les menstrues. Mm-hmm. Si tu demandes, bien, je dis que si tu demandes à quoi ça sert vrai, tu n'auras pas de réponse. Mais on a tout ça tous les mois et nous, on est obligé de vivre avec.
Oui.
Tu vois, les gars n'ont pas ces problèmes. Il y a des filles qui, quand elles commencent à saigner, tu vois, à vue d'œil, elles gonflent. Et toi, tu vas te dire que non, j'ai pris du poids. Et pourtant, ce sont tes hormones qui créent de la rétention d'eau. Donc, on est souvent là, on se maltraite dans le sens où on va commencer à réduire énormément ce qu'on mange. On se maltraite en disant que mais on ne fout rien depuis. On se maltraite en disant que oui, ça fait déjà 2 mois, donc on n'a pas changé. Mais est-ce que tu sais comment tes hormones sont en train de fonctionner à l'intérieur? Tu ne sais pas. Donc, oui. Just keep going. À un moment donné, tu vas te rendre compte, en fait, qu'il y a des résultats. C'est juste qu'à des périodes, tu as l'air plus ballonné que d'autres, et ainsi de suite. Mm-hmm. Et la vie continue tout simplement, quoi.
La vie continue. Mais par contre, dis-moi, j'ai oublié de te demander. Tu disais bien que tu fais les programmes en présentiel, mais également en ligne, c'est ça?
Oui.
Le Belém Osgo, on peut le faire en ligne ou il faut absolument être là?
Non, le Belém Osgo, au début, il était juste limité aux gens qui étaient dans ma salle de sport. Mm-hmm. Mais depuis l'année dernière, je l'ai fait de telle sorte que les personnes qui sont à l'étranger peuvent aussi l'acheter. Vous achetez le programme, comme le Mail 90, il est en ligne. Mm-hmm. Béphone m'a dit qu'elle le voulait, elle a payé, je lui ai envoyé, tu vois.
Oui, oui.
Donc, tous ces programmes-là sont disponibles aujourd'hui en ligne. Je ne peux pas me limiter seulement à la clientèle du Cameroun, parce que pendant les 2 premières années que j'ai commencé à exercer, c'était ça le reproche. Oui, ce n'est que ceux qui sont au Cameroun qui peuvent en bénéficier. Nous qui sommes à l'étranger, on fait comment? Et ainsi de suite, on a dit, OK, j'ai commencé à faire des programmes en ligne. Le Mail 90, par exemple, là maintenant, il y a un groupe WhatsApp. Toutes les personnes qui achètent le programme sont dans le même groupe WhatsApp. Mm-hmm. Ou celles qui veulent hein, être dans le groupe sont dans le groupe WhatsApp. Elles prennent les photos de leur place, elles ont des questions à poser, machin, pour que la même question ne revient pas 10 000 fois. Et maintenant, si quelqu'un pose une question et une autre personne a la réponse, elles s'entraident. C'est aussi un moyen de soutien, tu vois.
Oui,
donc,
oui.
Tout le monde est disponible en ligne. La personne qui le veut m'écrit ou m'appelle ou m'envoie un message sur WhatsApp. Tranquille, quoi.
Autre chose, pour le Belém Osgo, il faut absolument s'inscrire pour le programme en ligne. On peut le commencer à n'importe quel moment?
Oui, oui. Mais le programme n'est disponible que tu ne verras pas de programme Belém Osgo en janvier. Tu verras un Belém Osgo entre septembre et octobre.
D'accord.
Tu vois ce que je veux dire.
Oui.
Donc,
mm-hmm. OK. Sur ce, je crois qu'on a terminé. À moins que tu ne veuilles, rajouter quelque chose.
Je vais juste dire aux gens de faire attention. Faites très attention à vous. Comme je le disais tantôt, ce n'est pas parce qu'on a l'air mince qu'on est en santé. Mm-hmm. Il y a beaucoup de skinny fat. Skinny fat, vous voyez les filles minces, mais vous voyez la cellulite vraiment dans les bras, dans les cuisses. Vous avez, avec comment le monde est fait aujourd'hui, on est beaucoup empoisonné par ce qu'on consomme. Mm-hmm. Que ce soit l'alimentation, que ce soit ce qu'on regarde à la télé ou ce qu'on écoute à la radio, whatever. Ici, on se concentre sur ce qu'on mange. On est beaucoup empoisonné par ce qu'on mange. Donc, faites au mieux de tout ce qui est en votre pouvoir, de bien manger, de bien dormir, de bien vous reposer. Oui, comment je me repose avec les enfants? On peut se reposer avec les enfants. Il suffit de trouver la formule. Ce n'est pas parce qu'on a essayé une fois que ça n'a pas marché que les autres formules n'existent plus ou que ça ne va plus jamais marcher. Parfois, il faut réessayer la même chose 10 000 fois. Et c'est ce petit jour où on va modifier une petite chose que les choses vont changer. Je prends un exemple vite fait. Mm-hmm. Il y a un monsieur qui s'est fait amputer récemment, là. Et pourtant, il était tout fin. Je crois que j'ai parlé de lui tout à l'heure.
Oui.
Mais il avait un très mauvais mode de vie. Mm-hmm. Très mauvais mode de vie. L'alcool, la nourriture ne fuit pas. L'alcool même que les gens boivent, là, ça ne fuit pas. Mm-hmm. Oui, mais on ne vit qu'une seule fois, oui. Mais vaut mieux, on va tous mourir de quelque chose. Les phrases que j'ai l'habitude d'entendre.
Mm-hmm.
Aujourd'hui, là, avec la crise qu'on est en train de passer, les gens qui partent en premier sont les diabétiques, les hypertendus, mm-hmm. donc tous ceux qui souffrent des maladies qui sont liées à l'obésité ou au surpoids.
Mm-hmm.
Ça en dit long. Si ça ne met pas la puce à l'oreille de quelqu'un, c'est qu'il y a un problème quelque part. Ça en dit long. Ne regardons pas la santé ou le fait que nous, on fait du sport ou qu'on fasse des efforts juste à notre niveau. Ça affecte. Et ça encourage ou ça inspire, ça impacte les personnes qui sont autour de nous. Ça peut être nos amis, nos collègues, nos frères, nos soeurs, nos enfants, nos époux, je ne sais pas trop quoi. Donc, que chacun, à son niveau, fasse du mieux qu'il peut. En sachant que dans ce mieux-là, on progresse aussi. Et on va tous mourir de quelque chose. Mais il y a des gens qui sont sur leur lit d'hôpital en mode de « si je savais », tandis qu'il y a d'autres qui sont en mode « j'ai tout fait, Dieu a décidé autrement ». Donc, c'est tout ça pour la fin.
Merci beaucoup. Je te remercie vraiment d'avoir pris du temps pour te poser et répondre à mes questions.
De rien, merci pour l'invitation. Je ne réponds pas beaucoup aux invitations. C'est vrai que quand c'est Sébéphone qui parle, donc ça va. parce qu'on me donne un caractère de snob ou je ne sais pas trop quoi, mais bon, voilà, je n'ai pas souvent beaucoup de temps pour faire un certain nombre de choses et je ne réponds pas aussi, c'est clair, à toutes les invitations. Donc, merci de m'avoir sur ton blog, sur ta page, sur tes plateformes et j'espère que une personne au moins sera inspirée par notre échange pour faire ce qu'il faut. Et je sais que si une personne est inspirée, au moins 10 personnes derrière sont en piste.
Tout à fait. En tout cas, merci beaucoup. J'espère que Rabia qui a demandé, qui a commandé cet épisode, trouvera les réponses à ces questions. En tout cas, moi, j'en ai trouvé. N'oubliez pas, c'est chacun à son rythme. On ne se force pas. On y va doucement. Et puis après, on devient gourmand. Et en plus, on est bienveillant. Merci encore une fois de plus. Au revoir.
Au revoir. Bye bye.